The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves.
Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une émission spéciale, un débrief du Festival International des Jeux de Cannes, édition 2024. Et pour cette émission très spéciale, je suis en compagnie d'Elodie. Salut Elodie.
Salut Paul Gara, salut à toutes et tous.
Comment tu vas ?
Bah ça va pas mal, ça y est, je me suis remise de ce week-end de folie.
Oui, de ce week-end de 4 jours, hein, puisque c'était du jeudi 22 février au dimanche 25.
Ouais, c'est ça.
Donc 4 jours fatigants.
Oui.
On marche beaucoup et on s'est retrouvé parfois bloqué dans les étages. En fait, on pouvait plus circuler. C'était la première fois que ça m'arrivait, en tout cas moi.
Ouais, moi ça m'est pas arrivé. Je suis restée. Les moments où ils bloquaient, j'étais en bas déjà. Mais j'ai l'impression qu'ils ont bloqué plus tard que l'année dernière. C'est arrivé seulement le samedi en milieu d'après-midi, alors que l'année dernière, dès le samedi matin, on entendait que les gens ne pouvaient pas descendre de l'étage qui était l'étage enfant.
Oui, qui a été transformé en fait. Hein, parce que tous les espaces étaient plus. Enfin, il y avait beaucoup plus d'espaces que les autres années. Et pourtant, on n'a eu pas l'impression quand même que c'était bien tendu au niveau nombre de visiteurs et de visiteuses. Puisque comme les autres années, effectivement, comme tu le disais, il y a eu des moments où les accès étaient bloqués, on ne pouvait plus trop circuler. Mais ça ne nous a pas empêché de jouer.
Carrément.
Et dont une journée, on a joué toutes les deux. Donc il y a des jeux qu'on aura en commun, clairement. Et puis, on a fait une liste. Alors, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Donc, il est possible que cette émission soit diffusée en fait en deux fois, parce que même, on va peut-être même enregistrer en deux fois, parce qu'on a calculé que sinon on allait faire pas loin de 3h30, 4h d'enregistrement, et ça faisait beaucoup quoi, hein. On ne sait pas où on va, donc on s'est dit qu'on allait aviser en fonction du déroulé de l'enregistrement, si ça te va quoi.
Ça me va très bien. De manière, en tant qu'invitée chez toi, je suis tes règles.
Ah, c'est gentil, c'est gentil. Non, il faut que ce soit quand même confortable pour nous deux. Et du coup, 4 heures d'enregistrement, au bout d'un moment, on fatigue. Hein, voilà,
Oui, ouais, ça demande de l'énergie et de la concentration. Puis il faut quand même qu'on dise 2-3 trucs un peu intelligents.
Ouais, on va essayer. On va essayer de restituer nos sensations de jeu et ce qu'on a ressenti en découvrant les jeux en question. Alors, on va démarrer tout de suite par un jeu auquel j'avais déjà joué, dont on avait parlé avec Mad quand on était allé à Rennes. Et je pense que toi, tu l'as découvert sur le salon.
Oui, mais j'avais écouté votre débrief et vous m'aviez donné envie.
D'accord.
Alors que c'est pas du tout mon type de jeu, les jeux de déduction, d'habitude, c'est pas pour moi. Mon cerveau n'est pas fait pour la déduction.
On parle de Chronologique Paris 1920, donc un jeu de Fabien Gridel et Johan Levet, qui était coédité par Super Meeple et Ori Games. Et donc, comme tu disais, c'est un jeu de déduction, mais vraiment de déduction logique. Hein. Et en gros, c'est un peu Turing Machine, mais qui aurait été thématisé façon un petit peu Cluedo. Quoi. Je ne sais pas si c'est une bonne manière de le définir. Mais on a un peu ces idées-là qui viennent quand on découvre le jeu. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Elodie ?
Alors, moi, je n'ai pas joué à Turing Machine, parce que justement, comme c'est du jeu de déduction pure, je n'ai même pas voulu y aller. Là, j'ai aimé la thématique. Je me suis raconté une histoire. En revanche, j'ai trouvé. Enfin, voilà. Encore une fois, c'est pas mon type de jeu dans le sens où je suis très, 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 très mauvaise en déduction. Là où les autres avaient déjà trouvé qui avait commis le crime, moi, j'étais encore à au moins 4 ou 5 tours d'y arriver. En revanche, j'ai trouvé que la mécanique était vraiment très cool dans le sens où on a ces petites cartes à trous qui vont nous dire où dans quelle pièce le personnage est passé, combien de fois il est passé, etc. Et puis l'idée de plusieurs types d'enquêtes possibles dans la boîte, notamment on nous a parlé du dernier type où on va devoir suivre un bijou qui va passer de poche en poche. Ça, je trouve ça me fait super envie, même si c'est pas mon genre de jeu. J'ai trouvé énormément de plaisir quand même à y jouer.
Mmh. Ouais. Oui, c'est sûr que ça reste un jeu de déduction. Donc effectivement, je comprends que si c'est pas du tout si t'as pas d'appétence pour ce type de jeu et que t'es pas forcément à l'aise, parce qu'il y a effectivement on n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes, tu vois, les mêmes compétences. Et moi, je sais qu'il y a d'autres types de jeux où je vais pas du tout, je vais vraiment bloquer. Mais là, c'est vrai que si t'es pas du tout à l'aise avec la déduction logique un peu, pure, je peux comprendre que ce soit pas l'extase en découvrant le jeu, même si tu peux trouver des points forts. Est-ce que toi, t'as eu le sentiment qu'il y avait pas trop de temps mort, parce que c'est souvent ça le risque aussi quand on analyse ces indices qu'on récolte. Est-ce que le fait d'avoir, tu sais, des indices publics, des indices privés, toi, ça t'a un peu, t'as eu ce sentiment de pas trop poireauter, ouais?
En soi, le jeu m'a plu.
Ouais.
Juste que je suis mauvaise, mais le jeu m'a plu. Il faut aussi accepter. Donc... Des fois, on peut être mauvais à des trucs et kiffer quand même. Bon, j'ai eu beaucoup de mal à prendre des notes. Je savais pas dans quel sens les prendre. Ça, je pense aussi qu'en rejouant, on prend des habitudes et que j'aimerais bien y rejouer pour justement être plus efficace dans ma prise de notes. En plus, j'ai confondu deux personnages, donc ça m'a pas du tout aidé. Mais je me suis jamais ennuyée du fait, voilà, avec ces indices publics. C'est ça, c'est vraiment la bonne idée, je pense, du jeu. C'est que t'es tout le temps en train de réfléchir. Et d'essayer de comprendre ce que les autres ont pu avoir aussi comme indice. Enfin, je trouve ça vraiment pas mal.
Donc ouais, même tu dis, même si on n'est pas fan de des jeux de déduction, ça fonctionne quand même. Effectivement, je pense qu'en plus, c'est un jeu où tu montes un peu en puissance si t'en fais plusieurs, parce que tu commences à prendre comment dire, à avoir un petit peu pas des trucs, mais des astuces, ouais, voilà, pour être plus efficace, pour mieux prendre tes notes, etc. quoi. Je pense que c'est des jeux avec une petite courbe d'apprentissage... malgré tout, quoi.
Ah oui, oui, tout à fait. Je pense que avec un peu d'entraînement, je serais un peu moins mauvaise. Sans dire d'être bonne, mais moins mauvaise. Bon.
Bah, moi, je l'avais dit, donc c'est un jeu que nous, on avait beaucoup apprécié avec Mad. Après, voilà, moi, je suis en plus fan de jeux de déduction. Donc, si vous êtes fan de jeux de déduction, foncez. Si c'est pas votre kiff, essayez-le quand même, parce que vous pourrez quand même y trouver du plaisir. En tout cas, c'est ce que toi, tu dis, Elodie. Même si on n'est pas ultra fan du genre, on peut y trouver son compte.
Oui, oui, tout à fait.
Le jeu dont on va parler maintenant, c'est Pixies, un jeu de Johan Goupy, qui est édité par Bombix. Donc, c'est un petit jeu de cartes dans la même type de boîte que Seal, Salt and Pepper. Je n'ai pas très bien compris si c'était une volonté de créer une gamme ou pas. En vrai, bon voilà, c'est un jeu de cartes comme Salt and Pepper, mais on verra qu'après il n'y a pas vraiment de lien, hormis une direction artistique un peu différente de ce qu'on voit habituellement. Donc c'est un jeu de cartes dans lequel on va récupérer des cartes dans une rivière qui ne sera renouvelée qu'à la fin d'un tour complet. Et on va placer les cartes dans un carré de 3 sur 3, parce que les cartes sont numérotées de 1 à 9. Et on va essayer de créer des zones adjacentes de couleurs pour marquer des points. On va jouer en 3 manches. Et on marquera 2 points à la première manche, 3 à la seconde et 4 à la troisième manche de mémoire. Il y a aussi d'autres petites subtilités pour marquer des points, mais en gros, c'est comme ça qu'on va marquer les points. Il faudra avoir recouvert, en fait, il faudra avoir au moins 2 cartes de la bonne valeur pour marquer les points. Ensuite, des valeurs de ces cartes. Donc ça, tout ça, ça va situer. Mais on va jouer en 3 manches, je l'ai dit, mais d'une manche à l'autre, on reset complètement son tableau et on recommence. Alors, moi, j'avais déjà joué au jeu sur BGA avec Flavien. Et vraiment, à l'issue de la partie, bah, j'avais pas trop compris le sens et l'intérêt du jeu. Et bah, pour y avoir joué maintenant en physique, bah, j'en suis exactement au même point. Parce qu'en fait, quand on doit choisir sa carte, hormis quand on démarre la partie, bah, en vrai, tous les choix qu'on doit faire sont assez évidents. Il y a peu de dilemmes et peu de questions métaphysiques à se poser. Et en plus, comme on reset tout d'une manche à l'autre, bah, en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi le scoring évolue, puisqu'on fait exactement la même chose. Et en fait, sur les 3 manches, on fait tout le temps la même chose. On construit la même grille et on repart pas de l'existant. Donc, il n'y a même pas de nouveau challenge ou quoi que ce soit. Et donc, c'est très, très vite répétitif. Et finalement, on se dit qu'on préférerait faire 3 parties d'une manche, et quitte à avoir la liberté de s'arrêter avant, plutôt qu'une partie de 3 manches, parce que ça devient vite interminable. Enfin, nous, on a joué à 5, là, et c'était vraiment interminable, quoi, la partie. Et comme c'est répétitif, bah, la sensation, elle est 10 fois... Enfin, elle est accentuée, évidemment, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris l'intérêt et le sens du jeu. Peut-être que... voilà, je vois pas trop le lien entre Seal, Salt and Pepper, où il y a vraiment, pour le coup, chaque partie est un nouveau challenge.
Ouais.
Là, c'est tout le contraire. Donc, je sais pas. Je pense qu'il y a vraiment pas grand lien entre les deux jeux, hormis peut-être la taille de la boîte et puis une direction artistique, quoi, qui est assez originale. Je sais pas si toi, tu vois un peu le visuel de la boîte.
Oui, oui, c'est fait. C'est des petits personnages avec des éléments naturels, des glands, des choses comme ça.
Ouais, tout à fait.
Et j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu inspirés d'un artiste tchèque que je suis sur Facebook depuis des années. J'ai oublié son nom. Et donc ça m'avait attiré l'œil, mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Puis en plus, tu m'as dit que tu avais pas adoré, donc j'ai préféré aller vers d'autres jeux sur ce fige. Bah, j'y jouerai peut-être sur BGA, oui, vu qu'il est sur BGA, histoire de me faire mon idée. Mais si tu dis qu'on fait trois fois la même manche, je vois pas trop l'intérêt du truc. Et en termes d'interaction, ça se passe comment ? Est-ce que tu regardes quand même ce que font les autres ou tu fais vraiment juste ton truc dans ton coin ?
Oui, tu peux être amené à regarder ce que font les autres pour éviter de leur laisser des trop bonnes cartes. Donc oui, là, il y a quand même, oui, il y a quand même, t'as un peu, t'as quand même de l'interaction. Mais après, c'est toujours un arbitrage entre est-ce que tu préfères bloquer les autres ou prendre la carte qui t'arrange le plus. Enfin, c'est, tu vois, ça reste quand même une interaction. Enfin, tu peux avoir des personnes qui iront pas bloquer et t'en as qui vont systématiquement bloquer. Et là, ça va vraiment dépendre des tempéraments, je pense. Donc, ouais, moi j'ai quand même vu pas mal de retours qui disaient passer la première ou deuxième partie qui modéraient vachement leur enthousiasme de départ en disant ah non, mais effectivement, c'est quand même un peu répétitif quoi. Donc voilà. On va continuer avec un jeu auquel toi tu as joué. Alors, j'espère que j'ai bien le prononcé, c'est Kintsugi ou Kintsugi, je ne sais pas comment faut dire.
Je pense que c'est Kintsugi, en fait, qui vient de l'art japonais de réparer des objets avec de l'or.
D'accord.
Quand tu as cassé une tasse ou un bol.
Ok.
Donc, de remettre du beau dans quelque chose de cassé. Et c'est un jeu qui est sorti chez Paladis Game de Patrick Roland. En fait, c'est un jeu de draft. On va choisir ses cartes dans une rivière. On va choisir les cartes qui représentent de la vaisselle. Et une fois que tout le monde a choisi ses cartes, c'est un jeu de collection, en fait. Et la dernière qui reste, elle va être le type de vaisselle qui va se casser. Donc, on va retourner notre vaisselle on va les taper, en fait. Et ça sera nos objets qui seront cassés et qu'on va pouvoir réparer ensuite avec des feuilles d'or qu'on va récupérer de diverses façons. On est sur un jeu de collection assez classique qui va scorer en fonction, on a des majorités, on a des collections de motifs aussi, si on a la théière associée à un motif. Les objets qu'on aura réparés vaudront plus, donc en termes de thématique, on est logique. C'est assez agréable, ça n'a rien de révolutionnaire, mais c'est agréable, il est plutôt joli aussi, donc ça ajoute aussi au fait qu'il soit sympa à jouer. En revanche, il y a un gros souci en termes d'ergonomie. T'as deux types de vaisselle, t'as les tasses et les bols, enfin t'en as d'autres, hein. T'as des assiettes, t'as des sous-tasses. Mais les assiettes et les bols ont quasiment le même logo.
Ah d'accord, ouais, donc tu les confonds vite.
Donc tu sais pas, voilà, puis même en termes de forme, ils se ressemblent. Si t'as les deux l'un côté de l'autre, t'arrives à voir quel est le bol, quelle est la tasse. Mais si t'en as pas des deux types, à part que le bol il est un peu plus évasé, que la tasse elle est un peu plus petite, tu peux confondre facilement les deux. Et comme ils ne scorent pas du tout pareil, je trouve ça un peu dommage de faire des erreurs d'édition comme ça. Parce que vraiment, on l'a dit à l'animatrice, on dit mais c'est quoi la différence entre les deux? Parce que là, ça ressemble quand même beaucoup. Elle dit ah oui, mais on a déjà arrangé par rapport à l'édition originale.
Bah, ah oui, ouais, d'accord.
Peut-être que.
Ouais, c'était pas suffisant.
Vous auriez pu faire un tout petit peu mieux encore.
Ok, mais sinon, ça t'a quand même plu ou...
Oui, j'ai trouvé ça agréable. C'était l'une des premières parties du matin, donc pour se réveiller comme ça avec nos petits bols, nos petites tasses, c'était agréable. J'y rejouerais volontiers, mais sans avoir envie de l'avoir à la maison non plus, tu vois. Parce que c'est assez classique hein, dans un jeu de collection, donc si vous n'avez pas de jeu de collection, pourquoi pas. Si vous en avez déjà à la maison, je ne suis pas sûre qu'il amène quelque chose de bien original. Si ce n'est ce thème.
Oui, hormis le thème, il n'a pas une originalité qui le distingue de tous les autres jeux de collection. Quoi.
Non.
Très bien. Bah alors moi, après, j'ai joué à Sur les traces de Marie Curie, un jeu chez Sorry We're French, donc qui est un jeu de Florian Fay, qui est dans la même gamme que Sur les traces de Darwin, mais qui n'a pas du tout, parce qu'en fait, l'idée, c'est le même type de boîte, de visuellement, etc. Et l'idée d'utiliser la vie d'une personne célèbre pour bâtir un jeu autour de son travail. Mais sinon, c'est pas du tout le même type de jeu, parce que donc, Darwin, c'était de la pose de tuiles. Là, on va plutôt être dans l'échange de ressources En fait, on va faire des expériences, hein, en gros, comme ce que faisait Marie Curie, quoi. Donc, et on va aussi récupérer des tuiles différentes pour pouvoir scorer, avoir des petits contrats. Voilà. C'est un poil peut-être plus compliqué en termes de que Darwin, qui était quand même assez simple et moi je trouvais assez élégant. Après, le jeu m'a vraiment pas mal plu. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il peut y avoir vraiment des retournements de situation. Parce qu'en fait, on ne fait pas forcément beaucoup de points, mais on peut avoir des moments où on va faire 2-3 points d'un coup. Donc, ça fait des petits effets d'accélération, des petits moments où on met la pression aux autres, qui pourront peut-être d'ailleurs rattraper hein, le retard, en fait. Ce qui fait qu'on a quand même... nous, on a eu un dernier tour qui a été assez fou. Et tu vois, ça nous a fait un souvenir vraiment de dernier tour assez mémorable. Et le jeu n'est pas d'une originalité folle. Après, je trouve que le thème est assez bien restitué. Il y a vraiment un effort de travail sur restituer la thématique et tout. Et c'est l'édition, elle est, là, c'était un prototype, mais l'édition, on voit qu'elle sera aussi belle que pour Darwin. Mais j'ai bien aimé le fait qu'on ait des moments avec des retournements de situation où on a senti. Du coup, tu vois, c'est des parties que tu n'oublies pas, en fait. Elle ne va pas tomber dans l'oubli de toutes tes parties. Parce que le dernier tour qu'on a fait, bon, je le dis peut-être aussi parce que j'ai gagné la partie, j'avoue. J'ai fait un sale coup. J'ai fait un très bon coup au dernier tour et j'ai quand même jeté la dernière à jouer. Les autres n'ont pas rien pu faire derrière. Et c'est vrai qu'on en est ressorti. Tu vois, le lendemain, on reparlait encore du dernier tour, quoi. Donc, moi, j'aime bien quand des jeux arrivent à susciter ça. C'est des moments comme ça un peu mémorables, des souvenirs communs un peu forts. Ça veut dire que le jeu, il a le potentiel de pas être fade et lisse, mais de te laisser vraiment des vraies sensations et des vrais sentiments. Et après, ça reste classique, mais moi, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. C'est pas, peut-être pas le jeu. J'ai pas eu l'effet waouh que j'avais eu quand j'avais joué à Darwin, mais j'ai trouvé ça vraiment plutôt réussi. Donc, à voir en y rejoint sur une version définitive.
Ouais, moi, j'y ai pas joué. J'avais joué à Darwin, que j'avais trouvé magnifique, hyper agréable à jouer, mais assez classique, et du coup, j'avais pas été renversée. Et assez plan-plan, en fait. Enfin, le souvenir de ma partie, c'est vraiment ça. Enfin, d'ailleurs, je me souviens pas trop de la partie, à vrai dire. Et je suis un peu comme toi, moi. C'est vrai que je joue pour me créer des souvenirs, pour les interactions avec les gens, plus que pour l'objet jeu en lui-même.
Ou pour la victoire.
Et du coup, là, tu me donnes très, très envie. Enfin, tu vois, Kintsugi, j'ai gagné, mais aussi.
Mais oui, ça t'a fait ni chaud ni froid.
J'en garderai pas un souvenir fou, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais, je comprends. Ouais, parfois, tu as des victoires sans saveur, quoi. Là, c'était vraiment plus le contraire, quoi. C'était vraiment agréable parce que tu as l'impression d'avoir fait un truc un petit peu foufou, quoi. Donc, ça te reste, quoi. Bah, en tout cas, c'est...
Bah oui, ça crée des émotions, quoi. Et je pense qu'on joue pour ça, pour avoir des émotions, pour que... pour sortir un peu de notre quotidien, sortir un peu de nous-mêmes et vivre des trucs un peu forts avec les gens autour de la table, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je joue pour ça.
Oui, moi aussi, c'est plus ce qui va m'animer. Alors, je crois que le jeu sort en milieu d'année, si je ne dis pas de bêtises. Ils me l'ont dit, j'avais posé la question, mais j'ai déjà oublié, parce que je n'ai pas noté. Mais je crois que c'est mai ou juin, peut-être, une sortie prévue, je pense, milieu d'année 2024.
Ouais, mais c'est chouette qu'ils fassent cette gamme un peu historique. Et puis, le choix de Marie Curie est plutôt cool.
Oui, on est contente qu'ils aient choisi, effectivement, de... Voilà, c'est... On va dire que c'est un peu la femme ultra... Parce que ce qui, je pense aussi, c'est qu'ils cherchent des personnalités qui sont connues partout, en fait. Enfin, qui vont marcher à l'international. Donc, c'est... T'as cette contrainte-là. Donc, c'est sûr que Marie Curie, c'est, entre guillemets, ça, facile.
Oui.
Mais c'est très bien d'avoir choisi de choisir un personnage, enfin une célébrité, enfin un personnage historique féminin pour la deuxième boîte, quoi.
Oui, et puis ils auraient très bien pu dire Pierre et Marie Curie. Et là, de mettre que Marie Curie, c'est
bien
aussi,
Marie Curie, ouais, tout à fait. On va continuer avec le jeu auquel tu as joué après. C'est alors pareil, je vais te demander comment ça se prononce. C'est Blot ou Blot, comment on prononce?
Je pense qu'on prononce BLOT parce qu'en fait, c'est un acronyme de quatre dieux et déesses nordiques.
Ok.
Il y a Odin dans le tas, il y a... Thé, c'est Thor. L, c'est Loki, et c'est le B que j'ai oublié. Donc, c'est un jeu de pli un peu atypique, donc sorti chez Paladis de Johan Calais, Yann Grisonnet, David Papout, je ne sais pas, désolé monsieur, et Eric Ploton. Il n'est pas sorti encore, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Donc, nous, on a joué au proto. On va jouer sur 4 champs de bataille différents. Donc, c'est un jeu de plis où on va pouvoir faire des plis sur ces 4 terrains d'affrontement. Et chacun des terrains représente une des 4 couleurs présentes dans le jeu qui vont donner la couleur d'atout. Donc, tu vas avoir un terrain rouge, un terrain jaune, un terrain bleu, un terrain vert. Quand tu joues ta première carte sur un des terrains, ça va donner la couleur demandée. On n'a pas le droit de jouer la même couleur sur le terrain rouge, on ne peut pas jouer du rouge, par exemple. Et donc, on va pouvoir jouer nos plis, nos cartes, sur n'importe quel terrain et jouer autant de cartes qu'on veut sur ce terrain jusqu'à arriver à 4 cartes. Donc je peux très bien poser 3 cartes sur un même terrain. À mon tour de jeu, évidemment, on pose une carte par tour. Et alors que juste quelqu'un a posé une carte, ou je pourrais même poser les 4, que ce soit moi qui pose les 4 dans un même terrain. Une fois que 4 cartes ont été posées sur un terrain, on résout le pli. Donc ça, c'est du pli classique, hein. Si t'as coupé, tu gagnes le pli. Si t'as pas coupé, c'est la plus forte carte demandée qui l'emporte. On va refaire un deuxième pli, résoudre un deuxième pli sur ce terrain. Et ensuite, ce terrain-là, il va être offert à nos dieux. Et donc, ça va faire des scorings de fin de manche.
D'accord.
Donc, si je résous le terrain bleu pour la deuxième fois, eh ben, le bleu va aller, je vais le donner à Odin, qui va peut-être dire, bah, le bleu, si tu as des plis avec du bleu, ça va te donner 2 points de plus ou 2 points de moins.
Ok.
Donc, il faut calculer quel pli tu veux remporter. Les plis te font des points, donc c'est toujours bien d'en faire.
Ok.
Mais faire gaffe à quand tu vas clôturer un terrain, à qui tu vas donner le terrain en question. Parce que si tu as fait beaucoup de bleu, bah, faut pas aller le filer à celui qui te fait des points négatifs pour le bleu. Donc c'est hyper calculatoire, c'est vraiment pour les gens très très fans de jeux de plis. Le seul truc qui aide au calcul, c'est que tous les plis sont visibles, même ceux remportés. Donc tu n'as pas à compter, parce que je pense sinon ça serait complètement impossible, enfin, à part pour des calculettes sur pattes. Moi qui joue beaucoup à l'instinct en jeu de plis, voilà, là, c'est pas possible. Tu peux pas jouer vraiment à l'instinct. T'es obligé de vraiment faire du calcul intense pour arriver à faire les choses à peu près correctement. J'ai pu remporter la première manche parce que je pense que j'avais un peu saisi les tenants aboutissants du jeu un tout petit peu plus vite que mes partenaires de jeu. Autant dire que je me suis fait rouler dessus sur la deuxième parce qu'ils avaient pigé. Et là, c'était cuit. Mais c'est assez intéressant. J'ai plutôt
donc,
trouvé
en fait,
ça
tu
cool.
Joues plusieurs plis en même temps. En fait, t'as plusieurs endroits pour jouer tes plis, c'est ça ?
C'est ça.
Parce qu'il y avait un jeu comme ça de mémoire. Alors j'en ai fait une ou deux parties, mais ça fait un bout. Enfin, qui s'appelait Ghost of Christmas, un jeu d'un auteur japonais qui est un peu le spécialiste japonais du jeu de plis, c'est Flavien ne connaît que lui, c'est Taiki Shinzawa, et où tu vas jouer en fait, tu vas jouer dans le passé, dans le présent, dans le futur, donc tu vas avoir 3 endroits où tu peux jouer des plis en fait, avec 3 atouts différents potentiellement, donc j'ai l'impression que ça reprend un petit peu cette idée-là quoi.
J'ai pas joué à Ghost of Christmas. Il me semble que Flavien en a parlé quand on a parlé de ce jeu-là, d'ailleurs.
D'accord.
Mais oui, tu peux jouer comme ça où tu veux et tu peux jouer plusieurs fois sur le même terrain aussi.
Ok. Ouais, j'ai l'impression que ça reprend un peu cette idée-là, du coup, ouais.
Avec ce truc de scoring de fin de manche qui est vraiment... peut retourner la partie parce que si t'as pas fait gaffe à ce que tu prenais, tu peux t'auto-prendre des points négatifs,
oui,
en fait.
Oui, tout à fait, ouais. Ouais.
Et ça, c'est...
Mais j'ai l'impression que tu dis que ça reste quand même, du coup, il faut vachement compter... qui ça fait beaucoup. Donc si t'es pas vraiment ultra fan de jeux de plis où il faut tout compter, enfin bien sûr c'est dans l'objectif de gagner. En fait ça va pas être un jeu reposant pour les neurones quoi en fait. Enfin tu peux pas jouer
comme
ça.
Ah non pas du tout.
Voilà.
Pas du tout. C'est hyper demandeur intellectuellement.
Et même trop.
C'est hyper intéressant. Moi j'ai trouvé un peu trop, mais je pense que c'est le genre de jeu. Moi c'est vrai que je rejoue pas assez aux jeux. Pour vraiment avoir m'y investir énormément. J'aime tellement découvrir plein de trucs que... Mais là, je pense, pour ceux qui aiment le jeu de plis vraiment et qui sont prêts à s'investir, à jouer beaucoup à un jeu, ça peut être super intéressant. Enfin, en tout cas, moi, j'y ai vu de l'intérêt, puis j'avais jamais joué. C'était la première fois que je jouais à un jeu de plis avec plusieurs. Où tu joues des plis sur plusieurs endroits différents. Donc, moi, j'ai trouvé ça original.
Bon, de toute façon, les jeux de plis, faut pas se leurrer. Hein. Là, on va en avoir. On va en manger, en manger, en manger. Hein.
Oui. Ah oui, ça revient à la mode.
Ah, c'est ultra, ultra, ultra à la mode. Il y en a plein, plein, plein qui sont en préparation partout. Donc, voilà. Je pense que le jeu de plis a de beaux jours devant lui. Je pense que 2024, on va en voir beaucoup des jeux de plis, quoi. Qu'auront des twists, ouais.
Notamment une photo de Rebel Princess, qui était un peu mon coup de cœur des scènes. Donc j'ai l'impression que ça va être localisé en France.
Oui, sûrement, ouais. Bah, y en a un aussi qui est assez connu, qui a annoncé chez Yellow. Enfin voilà, on va en avoir pas mal, quoi, à mon avis. Bah écoute, on va continuer avec le jeu d'après, qui est beaucoup plus simple, lui. Alors toi, j'ai vu que tu y avais joué aussi, c'est Onyx, un jeu de Florian Siriex et Benoît Turpin, qui sort chez Blue Cocker. Alors c'est un petit jeu de... C'est pas vraiment un jeu de collection, hein. En fait, on va avoir des pierres, des gemmes. Il y en a de 4 couleurs différentes. On va les placer, on va faire 4 tas de mémoire, 4 ou 5 tas de cartes. Et à son tour, on choisit d'en prendre une. On choisit une couleur qu'on prend. Et on a le droit de prendre toutes les cartes adjacentes qui auront la même couleur. Et ensuite, on va les poser en... Comment dire, devant nous, en fait, pour faire des lots où on a les 4 couleurs présentes. Et une fois qu'on a réussi à rassembler les 4 couleurs, on peut banquer nos cartes. Mais à chaque fois qu'on prend une carte, selon la couleur qu'on choisit, il y a un pouvoir comme de voler la carte d'un adversaire, de repiocher une carte au choix, je ne sais plus quoi d'autre, de défausser une carte ou détruire une carte aussi chez l'autre. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'est un jeu très ultra, ultra simple, hein, vraiment. Mais il a cet avantage d'être très simple et finalement, les pouvoirs sont hyper simples aussi. En fait, c'est un jeu dont la simplicité est vraiment une qualité, parce que ça en fait un jeu assez épuré. Voilà, on voit, on comprend tout de suite ce qu'on va faire, les pouvoirs, on les intègre immédiatement. Donc, il n'y a pas de couche superflue, et pour le jeu que c'est, ça fonctionne super bien, quoi. Enfin, moi, j'ai passé vraiment un bon moment en y jouant.
Et pareil, et pourtant, j'en attendais vraiment rien, parce qu'on s'est assis là un peu par dépit en se disant, ouais, enfin, le visuel n'est pas ouf.
En fait, il est efficace pour le jeu, quoi. Il est à l'image du jeu.
Oui,
c'est-à-dire
ouais, c'est ça.
Il est très parlant. Tu as les couleurs, les formes, et en fait, il y a rien d'autre. Il y a pas de fioritures. Et c'est plus, c'est même plus que comment dire. C'est plus d'iconographie pure, quoi. En fait, le design. Et ça en fait, du coup, ça marche avec le jeu, quoi. Tout est raccord dans le jeu.
Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un jeu qui se prend pas pour ce qu'il est pas. Et à la fois, tu te casses quand même un peu la tête avec ces 4 effets possibles pour. Parce qu'il y a aussi un côté, si tu arrives à te défausser de toutes tes cartes, si tu arrives à virer tout état, tu remportes la partie instantanément.
Oui, parce qu'il y a des variantes en fait aussi. Il y a des trucs, on peut rajouter des petites variantes en fait si on a envie de corser les choses, etc. Quoi.
D'accord.
Je crois que ça, c'est
nous,
une variante.
On nous l'a présenté comme ça. Ah, ok. Bah on l'a joué comme ça et c'est comme ça que mon adversaire a gagné. Mais c'est vrai que c'est très très malin pour ce... Et moi j'ai l'impression que j'avais jamais joué un jeu comme ça. Pas vraiment.
Bah non, voilà, c'est ça. En fait, si tu veux, on entend tout le temps dire le petit jeu de cartes de l'été, tu vois. Et des petits jeux de cartes de l'été de merde, il y en a eu plein. On nous en resserre quand même régulièrement. Hein. Je fais coucou à la Init, hein, qui était vraiment catastrophique et qui n'avait aucun intérêt.
Oh là là, oui.
Et là, c'est tout le contraire. Parce qu'en fait, c'est de la collection. Et effectivement, en soi, c'est tout simple. Mais il y a les pouvoirs qui sont cool. Et la prise de carte qui est maligne, quoi. Le fait de prendre en adjacence, parce que ça change vachement ça peut vachement changer tes choix, puisque le but, c'est quand même de réussir à avoir les quatre couleurs, quoi. Donc, c'est vraiment important. Et moi, comme toi, j'en attendais rien. Et de fait, je trouve que ça fonctionne très bien. C'est super simple. Et c'est la simplicité positive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter pour que ça fonctionne. Et il y a plein de petits trucs malins dans le jeu, quoi. Donc,
ouais, je suis complètement d'accord.
Ouais, une bonne surprise, quoi. Vraiment.
Ah bon, une bonne petite surprise.
Ouais. Exactement.
Tout à fait.
Ouais. Donc, vraiment, allez y jouer, quoi. Parce que c'est plutôt cool, quoi, comme jeu. On va continuer avec Album. Alors ça, c'est toi qui as joué. Moi, je l'ai, on me l'a présenté, mais je n'ai pas pu y jouer. Je crois que c'est un jeu de communication, en fait, non? Ou de... Un peu, on va devoir dire... Plus, ça me fait plutôt penser à ça, ouais.
On nous l'a présenté comme un Dixit-like, pardon. Donc, c'est un jeu de Karen Minidré qui va sortir chez Acting Game. Oui, donc on a quelqu'un qui va avoir une photo. C'est un jeu à base de photos, de photographes... De vrais photographes, c'est-à-dire ça vient pas de banques de photos à la chaîne. Donc il y a un vrai point de vue sur les photos. Ouais, je trouve que ça c'est vraiment le... Pour moi, c'est le gros plus du jeu. C'est d'avoir des photos artistiques et qui racontent des choses. En tant qu'amoureuse de l'image, pour moi, c'est vraiment important, ouais, ça.
Et puis c'est pas si commun, hein, des jeux où on utilise des vraies photos, en fait. Tu vois, c'est...
Oui, tout à fait. Et c'était une vraie volonté de l'éditeur qui nous en a beaucoup parlé, qui les photographes seront crédités. Enfin,
oui, il y a une démarche ça, derrière. C'est intéressant. C'est pas, c'est ouais. Ok.
Oui, puis elles ont une sorte de double lecture, un peu comme on avait dans Dixit avec les cartes qui peuvent se regarder de différentes façons. Là, les photos, elles peuvent se regarder de différentes façons aussi.
Ok.
Si tu les regardes rapidement, t'as une première interprétation, puis t'as des détails derrière qui vont ah oui, en fait. C'est pas si évident que ça. Et ça, moi, je trouve que ça fait vraiment de l'intérêt. Donc, un premier joueur ou joueuse va prendre une photo et derrière va avoir à piocher des mots et mettre sur une sorte de grille de mots. Dire, bah, est-ce que là, sur la photo que j'ai, on a de l'inquiétude, par exemple, un taux d'inquiétude de temps. Nous, on avait la photo d'un enfant qui est sur une espèce de tracteur à roulettes le long d'une route avec des voitures derrière lui. Et tu le vois tourner la tête vers les voitures. Donc là, le joueur qui avait la photo à nous faire deviner avait mis l'inquiétude assez haute. Et après, à nous, donc il mélange la photo avec d'autres, et à nous de deviner, de supprimer des photos au fur et à mesure pour n'en garder qu'une. Un peu à la manière d'un Similo, quoi, aussi. Ce sera un peu Dixit rencontre Similo avec des photos.
Ok. Bon, est-ce que ça t'a plu ?
Eh ben oui, parce que pour ce parti pris de choix des photos, de choix de photos et non pas d'illustrations,
ouais.
J'ai trouvé ça intéressant. Après, c'est vrai que des jeux comme ça, bon, moi je suis une amoureuse folle de Dixit et aucun jeu ne viendra jamais détrôner Dixit. Donc voilà, on a cette sensation de jeu qu'on a déjà vu, mais avec ce côté intéressant d'utiliser donc des photos d'art. Et j'espère qu'il y aura assez de photos dans le jeu final pour qu'il y ait vraiment une possibilité de renouvellement et que t'aies pas l'impression d'en faire le tour très vite. Mais on imagine, s'il fonctionne, pouvoir avoir des extensions. Voilà. Non, okay. C'était pareil, plutôt une chouette découverte et un bon moment.
Eh bien, écoute, on va continuer avec les parties pris artistiques. On va parler de Mix Art, qui est un jeu de Jérémy Partinico qui va sortir chez Subverti. Donc, c'est un jeu dans lequel on va avoir des cartes avec des tags, des dessins de street art. Alors, je m'excuse parce que je ne m'y connais pas très bien. Donc, je vais peut-être dire des bêtises au niveau de la thématique. Donc, je m'en excuse d'avance. On a aussi des cartes avec... Enfin, sur certaines cartes, il y a donc des dessins de street art qui sont de 4 couleurs de mémoire. Et on va aussi... Ou 4 ou 5 couleurs. Et on va avoir aussi des bombes de peinture des couleurs correspondantes et on va avoir un timer pour faire le plus de points possible en fait en posant nos cartes de façon à ce que les bombes de peinture soient adjacentes au dessin de la couleur correspondante pour marquer le plus de points possible et puis progressivement on va avoir des cartes qui vont nous rajouter des contraintes mais qui nous permettront aussi de marquer des points bonus. Par exemple, il faut que toutes nos cartes soient posées à la verticale, et voilà. Il faut que toutes nos cartes, il faut qu'on utilise, il y a une couleur qu'on n'utilise pas, etc., etc. Donc c'est un jeu qui va, c'est un peu un puzzle finalement, mais avec du temps réel, donc ce qui donne un côté très frénétique, hein, l'avantage. C'est le même auteur que Dictopia, et on retrouve un peu ce petit moment de... Ouais, d'effervescence qu'on va avoir au moment où on lance le timer. Moi, ça m'a bien plu, vraiment. C'est pas du tout mon genre de prédilection. Mais j'ai trouvé que ça fonctionnait assez bien parce que c'est pareil. Le parti pris visuel fait que c'est assez On a une bonne vision de ce qu'on doit faire, même si on a des moments où on va bloquer, où on va rester sur des configurations, on va avoir du mal, il va falloir faire l'effort de se remobiliser pour changer, pour optimiser, améliorer notre œuvre d'art, quoi, finalement. Et notre mur, pardon. Et puis, le thème, il est quand même original, hein, comme toujours avec Subverti, hein, qui a toujours cette recherche de thèmes différents. Et pas de faire les thèmes vus, revus et déjà vus qu'on a dans beaucoup de jeux de société. Moi, ça m'a plutôt bien plu. Vraiment, une bonne petite surprise.
Oui, moi aussi. Alors, on avait fait une première manche sans timer, où là, c'était un peu plan-plan. Par contre, dès que tu rajoutes le timer, là, ça change vraiment tout au jeu. Parce que je crois que c'est 1 minute 30 ou 2 minutes, les manches.
Ouais, peut-être 1 minute 30.
C'est hyper court. Et nos cartes, elles sont recto verso aussi. Donc, tu as ce côté, oh là là, de quel côté je prends. En plus, quand tu rajoutes comme ça les effets de manche, là, pour le coup, le fait d'avoir plusieurs manches, ça prend tout son sens parce qu'on va empiler ces contraintes. Donc ça va devenir de plus en plus dur. Tu te dis, bon, qu'est-ce que je lâche sur quoi? Tu peux pas tout faire.
Oui, voilà, ça, tu dois faire des choix en très peu de temps. En fait, tu dois prendre des décisions très, très rapidement, quoi. Donc ça implique d'analyser très vite les cartes que tu as en main pour savoir, par exemple, si tu dois abandonner une couleur, est-ce que c'est quelle couleur tu laisses tomber. Enfin, je trouve que ça implique d'être vachement réactif. Et l'avantage, c'est que comme tu as le timer, la partie sera pas interminable. Parce que c'est des genres de jeux où si tu as pas de timer, il y a des gens, tu les retrouves le lendemain, ils sont encore en train d'essayer de faire le meilleur coup possible, quoi. Ne jouez pas avec ces gens-là, bien sûr.
Mais voyez, ou laissez-les. Laissez-les et revenez le lendemain compter les points.
Voilà, c'est exactement
puisque ça, de quoi. Toute manière, il n'y a pas d'interaction. Donc on peut tout à fait aller boire un café pendant que la personne, elle finit son truc.
Voilà, mais ouais, plutôt une bonne surprise, hein, un peu comme Dictopia, dont moi j'avais dit je suis pas une fan de jeux de lettres, et Dictopia ça m'avait bien plu. Bah là, je retrouve des éléments, et puis avec une thématique qui est quand même originale, quoi. Enfin, on peut pas dire que, enfin voilà, l'art c'est pas le thème le plus abordé dans le jeu de société, et encore moins le street art, quoi.
Puis là, c'est vrai qu'on a joué à une version proto où les illustrations n'étaient pas encore faites. Et dans le projet final, c'est d'avoir toutes les cartes de contraintes qui vont être illustrées par je ne sais plus combien d'illustrateurs et illustratrices différents à qui on va faire la demande de dire « faites dans un style street art ». Donc moi, j'ai hâte, là pour l'instant, on a juste une image de Christine Alcouf. Donc j'ai hâte de voir le résultat final de tous ces artistes. Qui va donner une couche en plus, puis je trouve que l'idée de mettre en valeur le travail des illustrateurs et illustratrices, moi, je trouve ça toujours cool.
Il y a un vrai parti pris là-dessus qui est chouette, quoi.
Voilà, après, faut aimer les jeux sans interaction, par contre, parce que vraiment, on fait vraiment son truc dans son coin et de manière frénétique. Mais si ça vous dérange pas,
moi, c'est pas un problème.
Oui, moi non plus, surtout sur des manches 1 minute 30.
Ok, ensuite tu as joué à Chat de poche. Moi j'y avais joué sur BGA, donc je me réserve mon avis de final puisque moi je dis toujours que j'ai du mal à être sûr que ce soit exactement pareil en version en ligne versus en version physique. Alors bon, il y a des chats, ça c'est un point positif.
Il y a des chats, c'est toujours un jeu avec des chats, c'est toujours un point positif. Non, alors. Ça, on a dit ça, on a... Ouais, c'est pas grand-chose. Comment expliquer ce jeu ? On a un tableau de cartes retourné, donc une grille, et on va avoir différents types de cartes. Donc on a nos chats, c'est un jeu à deux, exclusivement à deux. Chacun va jouer une bande de chats, qui peut avoir des pouvoirs aussi. Donc là, on ne les a pas utilisés sur une première partie, mais on pourra les rajouter ensuite. Je ne sais pas combien il y a de types de bandes de chats dans la boîte, mais il y a de quoi du coup avoir différents effets. Si on a les chats, on va pouvoir aller croquer des proies qui sont adjacentes, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a aussi des chiens qui vont faire fuir les chats, évidemment. Et les chiens vont faire fuir les chats. Il y a des petites flèches autour des chiens pour nous dire. Donc quand on retourne, donc tout est caché. On va commencer par retourner une tuile où on veut dans cette grille. et la déplacer. Donc si c'est un chat, il peut se déplacer, je crois, enfin on peut inverser le chat avec une autre carte de verticalement ou horizontalement, sur la même ligne ou sur la même colonne. Le chien, enfin chaque type d'animaux, on va pouvoir se déplacer d'une façon différente. Et le but du jeu, c'est d'essayer de s'organiser pour avoir un maximum de points, sachant qu'on joue sur la même grille avec son adversaire.
Ouais.
Donc il y a un petit côté tir à la corde, moi je fais un truc, tu vas me péter le truc que je fais. Alors il n'y a pas d'aspect de mémoire, hein. Rassurez-vous, si vous avez une mauvaise mémoire, vous pouvez jouer à ce jeu. C'est juste la découverte de qu'est-ce qu'on va avoir. Ce qui fait que, comme tout est caché, on est quand même sur un jeu un peu hasardeux, évidemment. C'est très court, donc moi j'aime le hasard, ça ne me gêne pas du tout. Le côté chaotique, ça ne me gêne pas. Sur un jeu très court, ça me gêne encore moins. J'ai trouvé la partie assez agréable. Ça ne m'a pas non plus retourné. Mais peut-être aussi parce que mon partenaire de jeu n'était pas du tout enthousiaste sur le jeu. Donc,
ça a peut-être modéré le...
J'y rejouerai volontiers, quoi. Peut-être aussi avec les pouvoirs pour voir ce que ça amène en plus. Et la DA, elle est assez chouette.
Hein. Ouais, la DA est assez chouette, il y a des chats. Bon, après, moi, je te cache pas que la partie que j'ai faite en ligne, j'ai trouvé ça vraiment assez nul. Ouais. Mais je ne sais pas si le fait de jouer en ligne est une bonne chose pour ce type de jeu, parce que le fait est que c'est des jeux pour lesquels tu as des trucs que tu vas pouvoir déplacer des cartes. Et en fait, quand tu joues en ligne, tout est hyper guidé par le... Mm. Donc, tu n'as aucune... En fait, je trouve que ça annule une partie de ta réflexion. Parce qu'en fait, tu te laisses vachement soutenir. Enfin, tu te laisses un peu porter par ce que te propose finalement le... Enfin, je sais pas, c'est pas le logiciel, mais tu vois, la version numérique. Ouais. Et c'est pas comme quand tu dois réfléchir par toi-même. Et moi, je trouve que c'est ce genre de jeu où ça me rend très paresseuse. Et c'est pour ça que je me méfie de mon ressenti, tu vois. Parce que j'ai pas eu l'impression de faire... J'ai eu l'impression de rien faire, mais je pense que c'est parce que le jeu fait trop pour moi. En fait, le fait que ce soit le développement du jeu en numérique fait trop pour moi. Et fait que je m'implique pas assez, et donc ça me rend paresseuse et me fait que je me sors du jeu, quoi. Donc, pour ça que je peux pas dire que j'ai pas aimé le jeu. Je préfère réserver au fait de jouer en vrai, quoi.
Puis je pense qu'en vrai, tu te chambres aussi. Ouais. Il y a ce côté d'interaction face à face où bah celui-là tu vas pas me le manger parce que tu te fais niaquer par le chien. T'as vu mon gros chien là que je t'ai mis là? Et je pense que ça joue aussi au plaisir de jeu, cette interaction, de se chambrer, de se taquiner, tout ça. Et ça, tu l'as pas sur une version numérique, à moins de jouer avec des potes, avec l'audio, quoi.
Ouais, bah c'est ce qu'on avait fait avec Flavien, mais comme tu vois, je me laissais un peu porter. Je pense que j'étais pas dedans, quoi. Donc, pour ça que, bon, je me dis à rejouer pour avoir un meilleur avis, quoi.
Oui, je pense que c'est un petit jeu agréable. Je pense qu'avec des enfants, il peut très bien tourner aussi. Du côté du côté du hasard, de ce que tu retournes, je pense que ça a testé avec des tout-petits, mais... À partir de 7-8 ans, je pense que ça peut être un petit jeu familial agréable. Donc, Chat de poche, c'est un jeu d'Alexandre Aguilar et Romaric Gallonnier. C'est paru chez Lumberjack et c'est illustré par Jonathan Aucomte.
Très bien. Bah écoute, après, moi, j'ai joué à Oxono. C'est également un jeu du même auteur que Mixart, puisque c'est un jeu de Jérémy Partinico. Donc, le jeu, c'est Oxono, c'est un jeu abstrait qui est édité par Cosmo Ludo. Qui fait, je crois qu'il y a toute une gamme en fait hein, de jeux, j'ai l'impression plutôt des jeux abstraits. C'est toute une gamme de jeux abstraits. Alors moi je suis pas une fan de jeux abstraits, je le dis tout de suite, c'est trop pour moi. C'est trop de calcul, enfin il y a trop de calcul de X coups à l'avance pour moi. Je pense que mon cerveau n'est pas fait pour. Après le jeu, en gros, on a deux couleurs et deux motifs. Et il va falloir faire à deux mémoires, hein, aligner soit quatre couleurs, soit quatre fois le même motif. Voilà, et donc il y a une façon de déplacer, de poser ses pions, comme dans tous les jeux abstraits. Bon, c'est bien fait, moi ça me convient, c'est pas du tout mon truc. Voilà, je peux y jouer sans problème, mais j'ai vraiment l'impression de jouer toujours random dans ces jeux-là. C'est trop, ça me demande... J'ai pas l'impression de pouvoir jouer suffisamment à l'instinct et ça me demande trop de calcul pour moi, quoi. Voilà, j'arrive pas à me projeter dans ce genre de jeu en fait.
Moi, je suis un peu pareil.
Voilà. Je me permettrais pas de dire que le jeu est pas bien. C'était plutôt. En plus, on en a fait deux parties, donc tu vois, c'est plutôt. Ça passait bien. Mais clairement, je sais que c'est pas des jeux faits pour moi, quoi.
Je comprends.
Ensuite, tu as joué à un jeu qui s'appelle Le Chemin de la Maison, et je pense que c'est un jeu enfant.
Tu penses bien. C'est un jeu pour les 5 ans et plus, même si je trouve que 5 ans c'est un peu juste. Mais
D'accord.
donc c'est un jeu de Léo Colovini, illustré par Sepio et qui est sorti chez Spaceco.
Bon, Léo Colovini, en principe, c'est quand même un auteur intéressant. Enfin, voilà, on se dit que ça doit être pas mal. On espère, on attend, on a des attentes en tout cas quand on voit son nom.
Oui, et ben, alors je n'ai jamais joué à deux jeux de Léo Colovini, ça fait partie des cases qui me restent à cocher de mon parcours ludique. Et donc là, c'est un jeu de programmation. Donc je trouve ça cool de faire un jeu de programmation pour les petits. Où le but du jeu, ça va être d'amener notre petit écureuil cacahuète à sa maison. Donc on a une espèce de grille. De chemin avec à chaque fois on va pouvoir se déplacer soit du côté de la forêt, soit du côté de la prairie, soit je sais pas vers la mer.
Oui, je regarde les photos en même temps que tu parles pour me rendre compte.
Et on va poser une carte pour dire de quel côté on va diriger notre cacahuète en essayant de suivre le chemin. Donc c'est un jeu à communication limitée, chacun à son tour va poser une carte. Sur une espèce de plateau.
On joue en coop du coup.
On joue en coop, ouais. Et le but, c'est ensemble d'amener notre petit écureuil jusqu'au bout du parcours. Et on va poser 5 cartes, mais il y a 7 emplacements sur le plateau. Ce qui fait qu'on va pouvoir dire, bah, cette carte-là, ça serait mieux de la jouer plutôt vers la fin. Cette carte-là, ça serait mieux de la jouer tout de suite au début parce qu'elle est vraiment cool. Et donc petit à petit, on va avancer notre écureuil qui va faire un peu des zigzags par moment parce que je pense qu'il a bu un peu des trucs chelous, des noisettes un peu fermentées, tu vois ce que je veux dire. Donc il chavire, mais on arrive comme ça petit à petit à l'avancer vers sa maison. Et quand on arrive à le planter dans sa maison, c'est hyper satisfaisant. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce jeu. Et même entre adultes,
Ça
ça
fonctionne.
fonctionne.
Ok. Et tu penses que 5 ans, c'est un peu juste en fait
Bah, cette idée de programmation, d'anticiper le mouvement de cacahuète, se dire bah si là l'autre il a placé, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre a placé, comme ça communication limitée. Donc si là, faut déjà anticiper, bah cacahuète il aura avancé par là. Et après si je l'amène là, ah bah il n'y a pas le trait pour relier telle et telle case. Donc il faut pas poser tel type de carte. Ça demande quand même une gymnastique. Alors je pense qu'au début on perd beaucoup et qu'il y a vraiment on va apprendre à perdre aussi peut-être avec ce jeu.
Après, peut-être ça peut marcher, ça marche juste avec des enfants même jeunes, même 5 ans, parce que c'est coop en fait, et que ça peut compenser un petit peu. C'est ça qui permet de jouer avec des petits-petits, même si peut-être qu'ils font un peu n'importe quoi tout au début. Et il y a une forme, de toute façon, il y a une courbe d'apprentissage dans ce type de jeu, clairement.
Nous voilà, on apprend à perdre et on apprend à faire mieux au fur et à mesure des itérations. Mais c'est assez tendu parce que t'as pas 15 000 cartes de déplacement et le but du jeu, c'est d'arriver à amener Cacahuète à sa place avant d'avoir dépilé toutes, enfin d'avoir utilisé toutes les cartes, quoi.
D'accord. Ok.
Et mine de rien, le terrain, il est grand. Donc ouais, non, très malin, très chouette.
Alors après, moi j'ai joué à un jeu qui s'appelle Rêve Lune, qui est un jeu qui est édité par Blam et qui est créé par Frédéric Dorn et Christophe Rimbaud, illustré par Anne Etzik. Alors Rêve Lune, ça reprend, c'est un jeu narratif qui reprend un peu le fonctionnement du jeu Pour la Reine de Alex Roberts. Donc voilà, vous savez sûrement combien j'aime Alex Roberts, qui est une game designeuse plutôt de jeux de rôle et qui a fait notamment donc le Pour la Reine et initié la gamme For the Story, qui sont des jeux qui un petit peu d'impro, à mi-chemin entre l'impro et le jeu de rôle, dans lequel on va tirer des cartes et raconter l'histoire. En rebondissant les unes sur le, enfin, sur chacune ce qu'a dit l'autre, etc., etc. Là, on reprend un peu la même idée, sauf qu'on va avoir en fait un rêveur, et selon le nombre que vous êtes, donc nous on était quatre, il y avait un rêveur et trois trois autres joueurs et joueuses qui vont lui raconter des choses. Et en fait, on joue en chapitre. Donc, on a une thématique générale. Donc, nous, on devait sauver un bébé panda, un truc comme ça. Et en gros, on va piocher des cartes qui vont nous dire danger, sauvetage, objectif, obstacle. Et on doit inventer par rapport à ça une péripétie qui va dans notre histoire par rapport à, au sens de notre carte. Donc, si c'est un obstacle, bah, je ne sais pas, on va dire qu'il y a un énorme fossé, on se retrouve face à un fossé, comment on va faire pour traverser, etc. Bon, on fait tout ça. Et ensuite, à la fin du chapitre, le rêveur, lui, doit déterminer si par rapport à ce qu'on s'est raconté, qui avait la carte bidule, qui avait la carte machin, qui avait ça. Et ça permet de gagner des points. Enfin, si on rate, si on se plante, ça nous enlève des trucs. Et puis, évidemment, bah, si on en a perdu trop, on ne va pas jusqu'au bout du chapitre et à la résolution finale. Bon, alors vraiment, c'était pas bien. Enfin, si tu veux. Ben, moi, j'aime bien les jeux narratifs. En plus, on était à une table où il n'y avait que des gens qui sont soit rôlistes, soit on avait quand même quelqu'un qui écrit des livres, quelqu'un qui écrit des jeux narratifs. Donc, je pense qu'on n'avait pas de problème.
Ouais, t'avais d'être... le public.
On était dans un groupe, on n'était pas qu'avec des Eurogamers, tu vois. Ils valent
ouais,
pas.
Ouais, ouais. Voilà. Non, t'avais le public normalement qui fait que ce jeu ça tourne.
Voilà, exactement. Sauf que bah pourquoi pour la reine ça marche ? Parce que pour la reine ça marche parce que il y a quasi pas de règles. C'est très très laissé à l'appréciation et il n'y a rien qui coupe l'immersion. Parce qu'en fait on rebondit. La parole elle est très libre et on rebondit. On tire une carte, on lit la question, on répond. On peut répondre, on peut dire des longs, courts, poser des questions aux autres. Ça s'enchaîne. Alors que là, le gros problème, c'est que dès que tu finis un chapitre et que tu dois le rêveur, il doit prendre les cartes pour savoir si c'est un obstacle, un objectif, un danger, un bidule, bah là, tu sors de l'histoire. Tu retombes dans de la mécanique pure. Donc, en fait, tout ce que tu as raconté, c'est ultra factice. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a aucune immersion qui se crée. Et en plus, dans Pour la Reine, les cartes de questions, je ne sais pas si tu as joué à Pour la Reine, mais les cartes, les questions qui sont posées, elles sont simples, mais en vrai, elles sont ultra travaillées parce qu'elles ont toujours deux, voire trois niveaux de lecture et de compréhension possibles. Ce qui fait que selon les types de public, tu ne vas pas du tout avoir la même façon de comprendre les questions, de la même façon de les interpréter, la même façon d'y répondre, ce qui crée tout le temps des renouvellements dans les histoires. Alors que, et c'est toujours assez, c'est subtil et assez adulte. Et là, bon, l'histoire de. Là, j'ai trouvé que c'était un peu pas très subtil et pas ça m'a pas paru. Alors, on a vu qu'un truc, hein. Mais bon, l'histoire du bébé panda à sauver. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Ça m'a pas paru très. Je sais pas. J'ai pas trouvé ça très ultra mûr, quoi. Enfin, j'en sais rien. Ça, j'ai eu un peu.
Oui, là, en voyant les photos des cartes, je dois sauver le roi lapin du taxidermiste. Ça faisait un peu bizarre.
Ouais, voilà, bah, c'est un peu ça tout le temps, tu vois. Et
qui est à la fois ni enfant ni adulte.
Oui.
Parce que je dois secourir le roi lapin prisonnier de l'infâme taxidermiste, tu te vois pas y jouer avec des enfants.
Non, et en même temps, t'es entre adultes, ça tombe. Enfin, ouais, c'est un peu. T'arrives pas trop bien à comprendre à qui le jeu s'adresse, et c'est pas fait de façon très subtile, quoi. Que pour la reine, c'est ultra subtil. Les questions, elles sont super bien faites, quoi. Tu vois qu'il y a eu énormément de travail, de réflexion sur comment rédiger les questions. Et là, vraiment, moi, j'ai trouvé ça, vraiment, sans intérêt, quoi. Et pourtant, j'aime bien les jeux narratifs. Hein.
Pour le coup, t'es vraiment le public, quoi. Tu es la cible de ce genre de jeu.
Ouais. Et en plus, comme tu rates, parce que dans Pour la Reine, il n'y a pas de victoire ou de défaite, tu vois.
Plaisir de jouer.
C'est le plaisir. Donc, il n'y a pas de pression. Là, en plus, ça te crée une sorte de pression. Tu vois, donc c'est horrible. Et du coup, c'est comme ça que tu retiens, tu brides l'imagination. Parce que finalement, pour être sûr que l'autre, le rêveur, trouve ta carte, bah, tu vas être vachement amené à dire des trucs super évidents. Obvious, tu vas faire des histoires super stéréotypées. Donc, du coup, c'est même pas. Ça bride plus l'imagination. Enfin, selon moi, hein, c'est mon ressenti. Pour moi, ça bride plus l'imagination qu'autre chose. Et du coup, c'est dommage.
Oui, là, ce que tu me dis, ça me fait penser à Il était une fois. Il était une fois qui, pour moi, était une claque, mais il y a 25 ans. Mais aujourd'hui, quand on y rejoue, ça a pris un coup de vieux, quoi.
Enfin, pour moi, vraiment, pas une bonne pioche du tout, quoi. On continue avec un autre jeu enfant de ton côté, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça, qui a été à la suite de la maison, là. Je suis allée jouer à Des souvenirs plein le ciel, donc de Rainer Knizia, toujours illustré par Sepio, qui est vraiment une illustratrice à suivre. Elle fait des très, très, très belles boîtes. Ah bah, Des souvenirs plein le ciel, l'illustration est magnifique, hein. On est dans une idée, donc là aussi, pour les 5 ans et plus, celui-là, je le trouve déjà plus adapté, enfin, il me paraît plus adapté à des petits que l'autre. Donc, on va être dans un jeu de parcours et de mémoire, où on va devoir, on a 6 petites cartes devant nous qui vont former un puzzle, c'est les souvenirs parcellaires de notre grand-père ou grand-mère, qu'il va falloir qu'on reconstitue. En amenant notre pion à différents endroits du plateau. En gros, on ne va pas arrêter de parcourir le plateau qui est composé de plein de petits jetons dont certains sont aimantés. Donc, on va se déplacer. On peut se déplacer tant que notre jeton, notre pion joueur ou joueuse, ne reste pas collé sur un des souvenirs. Il y a certains souvenirs qui sont un peu plus tenaces que d'autres. Et donc, si on se retrouve aimanté à un souvenir, on ne peut pas bouger. Il faudra attendre que le tour nous revienne. Donc là, on n'est pas du tout sur un jeu coopératif. Hein. C'est vraiment chacun essaye de reconstituer les mémoires de son aïeul devant soi. Donc, on a vraiment cet aspect de mémoire parce qu'il faudra essayer de se souvenir par où sont passés les autres et où ils sont restés coincés. Un peu de chance aussi parce que des fois, du premier coup, tu arrives à arriver à ton objectif sans te retrouver coincé. Et moi, ça m'a rappelé des sensations d'un vieux jeu Nathan qui s'appelle Magnus et la pièce d'or. Je ne sais pas si tu y as joué. Un jeu jouet tout en plastique avec un espèce de mage qui essaye de récupérer une pièce d'or, de ramener la pièce d'or chez lui. Donc, on a un peu cette idée-là, en bien plus mignon que Magnus. Et j'ai trouvé ça hyper agréable. Et puis, tu peux avoir des sacrés retournements de situation parce que quelqu'un peut se retrouver coincé. Des fois, tu as des nids de trucs aimantés. Ce qui sont posés au hasard sur le plateau. Donc. Et puis, d'un coup, si la personne se souvient d'où sont passés les autres et où il faut aller, elle peut vraiment rattraper son retard. Ce qui fait que tu n'as jamais perdu. Et puis, c'est vrai que les... Alors, toi, ce n'est pas ton cas. Toi, je sais que tu as une très bonne mémoire. Ce qui est pas... Moi, non. Mais souvent, les enfants ont une meilleure mémoire que les adultes. Du coup, ça nivelle aussi les chances de chacun et ça, enfin, je trouve que ça utilise très bien cette capacité de mémoire. C'est pas un memory, c'est pas un
ça renouvelle memory, bien le jeu de ouais. mémoire parce que c'est ça la difficulté du jeu de mémoire. En soi, c'est une bonne mécanique, hein, la mémoire. Hein, on l'a vu avec Tats Not a Hat, hein, qui est un excellent jeu. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est de renouveler, de pas avoir le sentiment de jouer un énième memory like, quoi. Que ce soit un peu plus,
voilà, bah là,
un peu plus intéressant.
On a vraiment
quoi.
Ce parcours qui amène quelque chose de nouveau.
Ok.
Et ouais, très chouette jeu enfant.
Ouais, donc chez Space Co, là, deux bonnes pioches, quoi, les deux jeux que
ouais,
tu as pu essayer.
Deux bonnes pioches chez Space Co, ouais.
Bah, moi, après, j'ai joué à Premier de Cordée. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Parce
même
que c'est
pas.
Jeu... Alors, pas du tout. Ouais, alors, bon, moi, je vous le dis, l'alpinisme, c'est pas du tout mon truc. Hein. Je souffre de vertiges assez violents, donc autant vous dire que dans la vraie vie, jamais j'irai faire ça. Dans Premier de Cordée, on va effectivement faire de l'alpinisme, on va grimper, c'est un jeu pour deux, et on va voir un plateau qui est à la verticale, et en fait, on ne voit pas, on ne peut pas voir ce que fait l'autre. Simplement, on va avoir des petits, je ne sais pas si on appelle ça des picots, je suis assez nulle en description, je m'aperçois, qui sont reliés avec une corde, un peu comme si on avait ben, une cordée d'alpiniste. Et on va devoir monter, mais en fait, on partage les trous en fait, dans lesquels on peut glisser ses picots avec l'adversaire. Et donc, on va se déplacer nos alpinistes, chacun notre tour, comme ça, en les faisant grimper. Et bien sûr, on est limité par la corde qui est entre deux picots pour pouvoir monter, en fait, tu vois, les faire bouger. Et forcément, à la fin, ça va en plus se rétrécir. Donc, il va falloir trouver le bon moyen d'arriver au sommet. Et le premier qui arrive à mettre un de ses alpinistes au sommet, il a gagné. Et forcément, on a le droit, à certains endroits, de mettre notre picot là où il y a... l'alpiniste de notre adversaire, ce qui fait que son alpiniste de l'autre côté va tomber. Donc il va pouvoir...
Quelle violence, ouais, mais quelle violence.
C'est un peu violent.
On fait tomber les gens dans le vide, mais quelle horreur.
Donc on peut le remettre tout autour d'après, hein, y a pas de souci. On peut pas le remettre dans l'endroit où il vient de se faire dégager, évidemment, ça c'est la contrainte. Mais on peut avoir jusqu'à, je crois, deux mecs dans le vide. Ça, on a le droit, en fait. Et je crois que c'est au troisième. Par contre, t'as perdu. Si t'en as trois qui se retrouvent dans le vide, là, t'as perdu. Donc, en plus, on va pouvoir se faire des petits sales coups, tout en sachant, on sait pas exactement où en est l'autre. Hein. Alors, écoute, franchement, c'est... Moi, j'en referais pas 50 parties, mais c'était marrant à faire. Moi, c'était catastrophique. Je suis montée très vite, et après, je n'arrivais pas à atteindre le sommet. J'ai fait un truc... Tout s'était emmêlé chez moi, c'était vraiment un bordel sans nom. Je me suis dit, c'est tout à fait moi, c'était tout à fait à mon image. Tu sais, j'ai rushé le début et après, non, après c'était la catastrophe. Ça peut plaire vraiment parce que le matériel est cool. Il y a ce côté de se faire des sales coups. Enfin, c'est vraiment pas mal. Moi, c'est pas mon type de jeu. Mais c'était intéressant et ça m'a fait rigoler d'en faire une partie, je referai pas. Mais là, c'est plus par goût perso que c'est pas le jeu qui est en cause. Hein. Le jeu est même plutôt pas mal et je pense que le matériel peut donner son petit effet et plaire vachement parce que tu vois, ça fait vraiment comme une montagne, c'est en triangle un peu. Voilà.
Oh ouais, je regarde l'image et c'est vrai qu'en tout cas, c'est intriguant.
Donc, c'est un jeu qui est chez Ozu. Un jeu de Romain Eyeramendi et Semir Kridi. L'artiste, c'est Tom Ogomat. Franchement, c'est une curiosité. Ça vaut le coup d'être joué au moins une fois parce que c'est vraiment assez, assez amusant. Quoi. Et c'est très drôle quand on découvre le côté de son adversaire. Quoi. Ça, tu vois, on ne s'attend pas du tout à ça. Enfin, tu t'aperçois que tu as vite perdu le fil de ce que lui faisait. Tu crois que tu sais ce qu'il fait, mais en fait, pas du tout, quoi. Et voilà. Et moi, c'était drôle parce que tout était emmêlé. C'était vraiment... Ça faisait vraiment le truc, gros, le vraiment... je sais pas, bordélique à souhait, quoi. Donc, assez amusant.
Ok. Ah, tu me donnes envie, en tout cas.
Ensuite, tu as joué à Genius Square, c'est ça ?
L'idée, c'est une sorte de Tetris. On a des tuiles façon Tetris, des blocs à placer. On va tirer des dés pour savoir où sont les obstacles sur notre plateau personnel.
D'accord.
Et ça va être une course. Au premier ou la première qui va arriver à placer toutes ces pièces de Tetris sur son plateau avec la contrainte donc de des cases qui sont bloquées par les jets de dés du départ où on va poser ces petits obstacles de partout. Faut aimer les casse-têtes, hein, clairement. Avec cette idée de course, alors moi je l'ai joué en solo, donc je pense qu'avec l'idée de course c'est vachement plus cool. En solo, c'est un petit casse-tête perso, j'adore le Tetris, donc j'ai kiffé. Je pense qu'à deux, c'est avec cette émulation de la rapidité, ça doit être vraiment vraiment sympa. Et tu peux avoir comme ça une montée en difficulté, par exemple... certaines pièces n'auront pas le droit de se toucher. Tu pourras pas avoir ton L qui va toucher ton carré, par exemple.
D'accord.
Donc, il y a ce côté de monter en difficulté au fur et à mesure, si t'as envie. Alors, je sais pas comment ils ont fait pour que ça puisse pas être... Enfin, peut-être que ça peut être bloqué par moment, parce que comme c'est complètement le hasard des dés qui vont te dire où tu mets tes... Enfin, je sais pas, sur la conception du truc... Comment c'est possible que tout soit réalisable et qu'il n'y ait pas de situation bloquée. Bon, peut-être qu'à un moment, si les deux joueurs-joueuses sont bloqués, on arrête. Et on en refait une. Parce que les parties sont hyper courtes, quoi. Et c'est dans c'est Smart Game qui sort ça. Et c'est un jeu de Salim Bergish. Donc très sympa si vous aimez les casse-têtes et le Tetris.
Alors, après, moi, je vais te parler d'un jeu qui ne va pas sortir tout de suite et je pense que je n'ai pas joué. J'ai joué sur une version qui était encore marquée, tu sais, Work in Progress, et d'ailleurs, on n'avait pas le droit de faire de photos, il me semble. Un jeu de Mathieu Aubert et Théo Rivière à sortir chez Space Cowboy qui s'appelle Inori. Les illustrations seront de Suzanne de Montron. Alors, Inori, c'est un jeu dans lequel, on va récupérer des ressources. je sais pas comment l'expliquer très clairement, et qu'on va venir, on va poser nos meeples sur des cartes et on va, qui vont nous permettre en fait de, les cartes vont nous permettre de faire des scoring en fonction des couleurs de ressources qu'on aura récupérées quoi. En fait, c'est des, je crois que c'est des jetons de faveur, etc. Et on va marquer des points en fonction de ce qu'on a récupéré. Et le but, c'est de se placer pour. Et bien sûr, il faut être placé sur la. Par exemple, si c'est, on a une carte qui va faire scorer, je te dis n'importe quoi, tes jetons bleus, il faut que tu aies posé un meeple sur cette carte, il y a trois emplacements pour pouvoir avoir le droit au scoring. Donc voilà. Si tu n'es pas dessus, bah, tu louperas, même si tu as 10 bleus, bah, tu marqueras 0 points. Bon, voilà. En gros, c'est ça. Alors, franchement, je vais faire un énorme disclaimer. Je ne sais pas si... On a joué à deux. Je pense que ce n'est pas une bonne configuration parce que du coup, bah, en fait, tu as très peu de blocage parce qu'à deux, tu es à peu près sûr que tu pourras te placer sur toutes les cartes que tu veux. Enfin, il y a peu de doute là-dessus. Et okay. Je pense que je me dis que la personne qui nous a expliqué le jeu a omis quelque chose dans les règles. Enfin, il y a quelque chose qui a pas été dit ou on n'a pas joué avec les bonnes règles parce que sinon, j'ai vraiment rien compris à l'intérêt du jeu. Donc, et on est vraiment ressorti de la partie avec la personne avec qui j'ai joué. On s'est regardé et on s'est dit, il doit nous manquer un truc. Parce que là, clairement, c'est vraiment bizarre, quoi. On est ressorti avec vraiment l'impression d'avoir loupé, qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans les règles du jeu, quoi. Qu'on avait oublié quelque chose. Donc, je peux pas dire que j'ai pas aimé le jeu. Je dis rien. Voilà. J'y rejouerai pour me faire une opinion. Parce que là, je suis incapable de te dire que j'ai pensé du jeu, puisque j'ai vraiment le sentiment de ne pas avoir joué avec l'intégralité des règles. Je me dis, c'est pas possible, il doit manquer un truc. C'est affreux hein, comme sensation.
Tu penses qu'il y a un mécanisme pour pouvoir jouer à deux qui bloquerait un peu
plus. Je sais pas, mais ou alors il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, ou alors vraiment il faut pas jouer à deux, ou alors je sais pas, il manquait un point de règle. Enfin, tu sais, parfois ça peut arriver qu'un tout petit point de règle en fait change toute la partie. Là, c'était quand même, si c'est joué comme ça, c'était super plat. Parce qu'en fait, à deux, tu peux pas te bloquer, donc il y a pas d'adversité, quoi. T'as pas le sentiment d'avoir de l'adversité. Donc, un peu bizarre, quoi, comme ressenti. Donc, voilà, disons que je n'en pense rien, si ce n'est qu'il faudrait que j'y rejoue, voilà. Donc, quand j'aurais rejoué, en étant sûr d'avoir les bonnes règles, et d'avoir fait une vraie partie normale, je pourrais corriger, retourner dans le passé et corriger, tu vois, cet enregistrement pour dire, ah, mais en fait, peut-être que je te dirais que c'était pas bien, en fait, j'en sais rien, mais oui, là, vraiment, je suis vraiment sortie de là. Il y a des jeux où je me dis, bon, c'était vraiment pas terrible, il faudrait que j'y rejoue, mais je sais que j'ai joué normalement. Là, j'ai vraiment l'impression d'être sortie en me disant, on était deux, on s'est regardé, on s'est dit, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, quoi. Donc, voilà, je réserve mon avis.
Mais peut-être aussi qu'ils s'en sont rendus compte, enfin que le fiche leur a permis de s'en rendre compte et peut-être de faire des modifications derrière.
Aucune
si
idée.
C'était encore
vraiment,
en étape proto.
Ouais.
Donc peut-être que tu ne rejoueras pas au même jeu.
Peut-être que je ne rejouerai pas au même jeu. Bah écoute, tout ce que j'espère, c'est que mon expérience sera plus intéressante que celle-là, parce que celle-là, c'était vraiment pas fou, quoi. Voilà. Donc je te laisse la parole pour le jeu suivant, qui est un jeu auquel j'ai déjà jamais joué, ouais.
Alors, donc le jeu suivant, c'est Stop Me or Let Me Go, de Teju Sawada, illustré par Maud Chalmel, et c'est chez Kif. Donc c'est un jeu de bluff, on va avoir des malfrats qu'on va devoir soit laisser partir, soit essayer d'arrêter. Chacun va poser une carte face cachée sur ce malfrat qui dit soit stop pour l'arrêter, soit go pour le laisser partir. L'idée c'est qu'on va essayer d'arrêter les malfrats qui valent le plus de points, pour essayer d'en gagner au maximum à notre tour de ces points. On est vraiment sur ce genre de jeu de bluff caché, où moi je suis archi mauvaise, j'ai toujours l'impression de jamais rien comprendre à ce que les autres font, et de jouer complètement pif tout le long, et ça me... Au point que je me dis que je suis complètement déconnectée des autres gens, ça me met dans un état un peu bizarre, ce qui fait que j'aime vraiment pas trop ce genre de jeu, et que j'y vois aucun intérêt, parce que comme je comprends rien de ce que font les autres, bah que je joue au pif, du coup. Je sais pas pourquoi j'ai gagné, je sais pas pourquoi j'ai perdu, c'est parce que j'ai rien compris à ce que font les autres.
Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, du coup, t'as l'impression de pas avoir de maîtrise sur ce qui se passe autour de la table, quoi.
C'est ça. Et que les autres en ont. C'est ça. Parce qu'à la limite, tu joues à un jeu de dés où t'as zéro maîtrise.
Ouais, peut-être qu'en fait, ils font un peu tous semblant, tu sais. Moi, je trouve que dans les jeux de bluff, dans les jeux de bluff et de guessing comme ça, souvent, il y a une grosse part de culot, en fait. Hein. En vrai, je suis pas toujours sûre que tout le monde sache bien ce qu'il fait, mais bon.
Oui, voilà, oui, mais moi, je sais pas faire semblant. Puis alors, j'ai un visage, on lit tout dessus, donc jeux de bluff, c'est pas du tout mon truc. Du coup, ouais, moi, je suis complètement passée à côté de ma partie et j'ai pas trop vu l'intérêt du jeu, mais parce que voilà, c'est vraiment pas mon type de jeu. J'ai vu que tu y avais joué aussi.
Oui, moi, j'y avais joué à Paris et Ludique et c'est vrai que moi, j'avais vraiment bien aimé, quoi. Alors après, comme toi, c'est pas des jeux où, en vrai, j'ai l'impression d'avoir autant de maîtrise. Mais aussi, je trouve que les autres autour de la table ont toujours l'impression qu'ils sont, ils savent hyper bien ce qu'ils font et tout. Et moi, j'ai toujours l'impression aussi, parfois, de faire un peu, de jouer un peu au pifomètre. Mais je suis persuadée qu'en réalité, c'est un peu pour tout le monde pareil. Et qu'après, c'est plus une façon de bluffer ou d'avoir du culot pour faire croire qu'on sait ce qu'on fait. Alors moi, j'avais plutôt bien aimé le jeu. Hein. J'avais trouvé ça assez cool. J'en ai un très bon souvenir. Donc, tu vois, et puis, je trouvais que le visuellement, bon, ça n'a rien à voir avec le jeu, mais le visuel est vraiment top, quoi.
Ah oui. Ah oui, visuellement, rien à dire. J'aime beaucoup le travail de Maud Chalmel. Je trouve que le parti pris graphique, il...
Ouais, ce qui rajoutait au jeu, parce qu'en fait, ça fonctionnait assez bien. Moi, j'avais vraiment bien aimé. Donc, ouais. Après, c'est sûr que si t'es pas fan de genre de jeu, avec du guessing, du bluff et tout, bah oui, clairement, c'est que le jeu repose que là-dessus, quoi.
Ah oui, complètement. Et moi, c'est vrai que c'est des jeux, je passe complètement à côté. Alors après, on m'en propose une partie, je jouerai, hein. Mais sans savoir ce que je joue. Donc sans prendre un plaisir fou à jouer.
Ouais, bah oui, ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Bah écoute, on va continuer avec un jeu auquel on a joué ensemble. Et on peut dire qu'il n'était pas très bien. Je ne sais pas si on était...
Non, il n'était pas terrible. C'est pas le meilleur souvenir des 4 jours.
Non, c'était notre premier jeu toutes les deux, je crois, en plus, franchement, bon. Alors, ce jeu, c'est Les Architectes d'Amitis. Un jeu de Jérémy Ducret et Romaric Gallonnier, qui est illustré par Agnès Ripoche et qui sort chez La Boîte de Jeux. Alors, ouais, déjà, moi, quand en fait, j'ai vu le titre, faut dire que, sur le coup, je me suis dit, tiens, Amitis, machin, c'est bizarre. Ça m'a fait penser au jeu d'Istari. Bon, ça n'a aucun rapport, hein. Voilà. À part un vague thème babylonien, je crois. Ben, voilà, c'est à peu près tout. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est un jeu pour deux, où on va poser des tuiles. Et puis, en gros, il faut faire des contrats. Alors, on a des bâtiments, on a des fonds on a des couleurs. Il va falloir faire des contrats en fonction des couleurs et puis des bâtiments. Et puis, selon les bâtiments, on a des pouvoirs, quoi. Voilà, c'est sans intérêt. Voilà, vraiment. Je sais pas comment dire, en fait. C'est le genre de jeu. C'est pas nullissime, c'est pas vrai. Je suis un peu dure, là.
Non, c'est pas nul.
C'est pas nul du tout.
Mais c'est pas bien non plus.
Mais non, en fait, t'en ressors en disant, bon, ben voilà, ça t'a fait quoi ? Moi, ça m'a fait ni chaud ni froid, quoi.
Oui, pareil. Pareil, ce truc de... L'impression d'avoir déjà joué à ce jeu.
Oui, ouais, c'est ça. Une impression de déjà vu, comme on dit, et sans originalité. Et alors, après, ça, c'est pas de la faute du jeu. Enfin, c'est plutôt de la faute de l'édition. Moi, j'avais un mal fou à... Je trouve que les bâtiments sont pas très lisibles, quoi.
Ah oui, ils se ressemblent tous et fallait tout le temps retourner à l'aide de jeu, ouais, pour voir, attends, ça c'est quoi ? C'est un jardin ? C'est un palais ?
M'a fait le même effet que les bâtiments beiges des châteaux de Bourgogne, tu vois, où j'ai toujours... Après plus de 50 parties, je suis toujours obligée d'aller revérifier leur pouvoir, et lequel est lequel. Et ça m'a fait exactement le même effet, et sauf que là, c'était quand même beaucoup plus gros, et c'est quand même un jeu de 2024, pas un jeu de 2012. Donc, tu devrais te dire, bon, on a fait des progrès en principe et tout. Et... Ouais, bah voilà, c'est ça. C'est un jeu, pour moi, c'est un jeu qui pourrait ne pas exister, quoi. Il manquerait à personne, tu vois.
Oui, à part à ceux qui n'ont jamais joué à ce type de jeu et pour qui ça serait le premier, pourquoi pas.
Ouais.
Bah, mais encore...
Bah oui, mais il peut, je suis sûr qu'on peut le retrouver mieux, quoi.
Oui, je pense aussi qu'on peut le retrouver mieux. Et puis, il y a eu aussi un truc, c'est que bah, ça, c'était une volonté de l'éditeur de nous installer côte à côte et pas face à face. Et moi, j'ai trouvé que sur l'expérience de jeu, c'était quand même pas très agréable parce qu'on avait l'impression d'être en vitrine.
Oui.
Et d'avoir les gens qui passaient dans les allées, qui se plantaient devant nous pour nous regarder jouer. Je trouvais ça hyper désagréable.
Oui, c'est vrai,
t'as
raison.
Et je pense que ça n'a pas aidé à mon expérience de jeu, d'avoir l'impression d'être scrutée dans ce que je faisais par les gens qui regardaient.
Mais c'est vrai que t'as complètement raison. J'y avais pas repensé, mais j'ai trouvé que la configuration à laquelle on était installé pour jouer n'était pas très plaisante. Parce qu'on était en bord d'allée et effectivement les gens s'arrêtaient et t'avais l'impression vraiment, tu sais, que ouais, que c'était un peu aux zoo, quoi, tu vois.
Ouais, c'est ça. On était dans la vitrine du magasin. C'était pas du tout agréable et je pense que.
Et après, on a eu aussi la personne qui nous demandant si on avait aimé, à qui j'ai dit que non, pas trop, me dit ça c'est parce que t'as perdu. Ça fait vraiment genre de réflexion. Enfin, quand vous êtes animateur par l'éditeur, ne faites pas de réflexion comme ça aux personnes qui viennent jouer. Il ne faut pas. Enfin,
Mais tu l'as bien mouché. Tu lui as répondu, mais j'ai pas 5 ans. Du coup, il a baissé le nez et je pense qu'il j'espère qu'il ne la refera plus cette remarque. Je pense qu'il a appris sa leçon.
Bah, vraiment, quand les gens viennent jouer à vos tables, dites-vous que, enfin. Ça, c'est pas vos potes, en fait. Enfin, tu vois, c'est un peu comme si tu rentres dans un magasin et que les personnes qui travaillent t'agressent. C'est pas très cool, quoi, en fait. Ça donne pas une super image de... Ça donne pas une super image, quoi. Et... Voilà. Donc, ne faites pas ça, vraiment. Ne faites pas de réflexion comme ça, ouais, aux personnes, ouais. C'est à éviter.
Oui, oui. Puis, acceptez aussi qu'on puisse ne pas trop aimer votre jeu à partir du moment où... Comme n'importe quelle œuvre, hein, où ça devient public et où vous la livrez au public, accepter le fait que certains puissent... surtout que tu t'as juste dit qu'on n'avait pas trop aimé.
Bah, surtout qu'il m'a demandé si on avait aimé. Donc, voilà. Sinon, il ne demande pas et je n'aurais rien dit. Voilà.
Oui, voilà. Et en plus, tu as été tout à fait courtoise et diplomate. T'as pas dit à votre jeu, c'est vraiment naze. Donc ouais, non, c'est... Moi, j'ai eu le cas d'un autre animateur sur l'espace Asmodée où, quand tu gagnais le jeu, il te filait un ticket pour aller tourner une roue. Et on dit, qu'est-ce qu'on peut gagner? Il fait, oh, vous pouvez gagner des trucs cool, comme ça, il y avait des boosters magiques ou je sais pas quoi. Puis... Et vous pouvez aussi gagner des merdes comme des posters. Je me suis dit, bon, c'était le dimanche après-midi, en milieu d'après-midi, il est peut-être fatigué le monsieur, mais tu dis pas des trucs comme ça.
Bon, à la limite, c'est assez drôle presque, tu vois.
Oui, ça c'est drôle, mais voilà, c'est pas très pro, quoi, c'était marrant. Surtout que moi j'aime bien les posters, donc je me suis dit, j'aimerais mieux gagner un poster qu'une figurine de 10 cents d'un jeu que j'aime même pas et qui va prendre la poussière dans un coin.
Bon, donc après cette partie qui n'était pas fofolle, hein, voilà. Toi, tu as joué aussi à Mind Map, c'est ça? Chez Sorryware French, chez Funny Fox, c'est une coédition.
C'est ça. Et donc, c'est un jeu de Johan Go, Hope S. Wang et Gary Kim, et illustré par Ulrich Maes. Bon, il y a juste la couverture qui est illustrée, en fait. Et c'est un jeu qui va se rapprocher un peu de Profiler, sauf qu'au lieu de jouer avec des personnes célèbres, on va jouer avec des objets, ce que je trouve plus cool, parce que je pense que ça se démode beaucoup moins vite. Donc on va avoir une espèce de... On va avoir un graphique avec des abscisses et ordonnées. Désolée, je dis 2-3 gros mots, là. Et on va avoir un mot maître étalon qu'on va mettre au milieu de cette grille. Donc par exemple, je sais pas, un boulet de canon. Et on va avoir, donc sur l'abscisse, genre, est-ce qu'on l'offrirait à un extraterrestre s'il venait sur la Terre? Et puis, sur l'ordonnée, est-ce que c'est utile pour se marier? Et on va chacun, donc on est sur un jeu compétitif, et on va avoir chacun à faire deviner l'emplacement d'un mot. Donc on a un mot par joueur et joueuse. C'est un jeu qui est plus sympa quand on est un peu nombreux. On y a joué à 6, c'était assez cool. Et après, à 8 et plus, tu joues en équipe. Donc, mettons que moi, j'ai le mot, il y avait une momie. Donc, est-ce que je pense que par rapport à un boulet de canon, la momie est plus cool à donner à un extraterrestre? Et est-ce qu'elle peut servir plus à un mariage? Et donc, en fonction, je vais poser une espèce de tuile localisation, un peu comme on a sur Google Maps, là, sur le graphique. Donc là, je pense que c'est pas terrible à donner à un extraterrestre, et c'est quand même pas hyper une momie pour un mariage, je vois pas trop l'utilité, donc je vais aller la mettre peut-être dans le coin en bas à gauche. Et on va tous faire ça en même temps, et ensuite, comme sur Adixit, on va chacun voter sur le mot 1, qui est le mot que j'avais, il est là, le mot 2, il est là, et ainsi de suite. Et on va gagner des points si on a bien voté. C'est archi malin. Alors, il y a un moment d'adaptation pour tout le monde.
Il y a un petit coup à prendre, ouais.
À savoir, attends, si je pose mon truc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que c'est plus utile pour un mariage et pas à donner à un extraterrestre, ou c'est l'inverse ? Une fois qu'on a fait un petit coup à prendre sur la spatialisation, et là, au début, je me suis dit, oh, j'y arriverai jamais, je saurais jamais vous poser les trucs, et je me suis rendu compte, c'était tout le monde autour de la table qui était aussi paumé que moi. Donc, ça amène un ou deux tours au début où chacun redit, là, moi, j'ai mis là pour dire ça. Et une fois passé ça, ça amène vachement de discussions. Et c'est assez fun. Enfin, moi, il m'a plutôt, dans les jeux d'ambiance comme ça, je l'ai trouvé. En plus, c'est pas du tout graveleux. T'as pas de.
Ah oui, parce que moi, c'est toujours ça.
Enfin, en tout cas, tout ce qu'on a sorti. Moi, ça me gêne énormément.
Moi, c'est le problème que j'ai avec tout ce type de jeu. Bon, je suis pas du tout cliente de ce type de jeu. Je pense que tous les gens qui écoutent et qui me connaissent un peu le savent. Et notamment parce que très, très souvent, on a des trucs un peu potaches, un peu graveleux, et que pour moi, c'est vraiment, moi, dans les jeux de société, c'est red flag tout de suite, quoi, ce genre de truc. J'ai toujours la trouille de ça, quoi.
Bah moi, pareil, je suis super gênée, je suis assez pudique, et du coup, dès que ça part en dessous de la ceinture, j'aurais envie de me cacher sous la table. Et là, et encore plus quand tu joues avec des gens que tu connais pas, parce que là, on avait alpagué, on était quatre, on a alpagué deux personnes qui passaient dans l'allée et qui regardaient un peu en disant « Allez, venez jouer avec nous ». Soit on a eu du bol dans les cartes qu'on a tirées, mais en général, quand t'as du graveleux, t'en as quand même une grosse proportion dans le jeu, et c'est pas juste une ou deux cartes anecdotiques, tu le vois assez vite. Là, c'était vraiment du tout public. Le fait de jouer avec des objets, et donc pas avec des personnages, fait que tu peux jouer avec tout le monde.
Oui, oui, t'as pas le côté, si tu connais pas la personne, c'est naze, quoi.
C'est ça, parce que les gens avec qui j'ai joué l'ont beaucoup comparé à Profiler, auquel j'avais pas joué, j'ai joué depuis. Et je trouve que Profiler, tu joues avec des enfants, ils connaissent pas les gens, ou même les gens dans 3 ans, on sait plus qui c'est, certains. Ouais. Sans déconner, on est tombé sur Sébastien Chabal.
On l'a oublié.
Je pense que bientôt, on saura plus qui c'est, tu vois. C'est... Ben voilà, alors qu'il est pas si vieux que ça, Profiler. Et là, ça amène des sacrées discussions. Genre, on a eu la momie, quelqu'un l'avait posée très haut sur l'offrir à un extraterrestre. On a dit, mais pourquoi t'irais offrir une momie à un extraterrestre ? Un truc mort, quoi. Mais elle voyait le côté
relique,
très rare de la momie. Le côté
relique et tout.
Ouais. Okay. Et puis le sarcophage et tout ça, à dire, mais c'est quand même un truc très cool à offrir parce que c'est rarissime. Ouais, mais c'est un machin mort et dégueu. Donc ça amène de la discussion et des discussions complètement improbables. Ce qui fait que c'était, enfin, même avec des inconnus, on s'est bien marré. Et ça, c'était, moi, c'est une jolie petite surprise.
C'est quand même l'objectif de ce type de jeu, c'est de susciter des discussions improbables et de se marrer, en fait. Enfin, de créer.
Tout à fait. Et donc moi, je le mettrais dans la même catégorie que Top 10, par exemple.
Bon, j'y jouerai à l'occasion. Après, voilà, bon, c'est pas mon type de jeu. C'est le genre de jeu dont je raffole pas et je cours pas après, mais. Oui, si j'ai l'occasion, je testerai quand même, quoi. Alors ensuite, on avait joué toutes les deux à Solstice, un jeu de Bruno Catala et Corentin Lebras, qui est édité par Lumberjack et qui est illustré par Gorobei. Solstice, alors moi, j'y avais joué sur BGA avec Flavien, encore lui, tiens. On lui fait un petit big up, comme on dit. Et on s'était posé la question. Moi, ça m'avait plutôt plu sur BGA. Et je m'étais posé plein de questions métaphysiques. Parce que, en fait, c'est un jeu dans lequel on va récupérer des tuiles, paysages, qu'on va placer. Sachant qu'en fait, on va faire une sorte de pyramide. Et donc, on met en posant toujours les plus en, tout en haut, je crois que c'est les violettes, puis les roses, puis les bleus, les vertes, etc. etc. Et donc, il y a de plus en plus de tuiles selon les couleurs. Et moi, je m'étais posé la question de savoir, bah, sur BGA, ça fonctionne très bien, mais je me demandais en vrai comment, comment ça allait se présenter, etc. La taille des tuiles, enfin bon, plein de trucs comme ça. Et la grosse particularité du jeu, c'est que, en fait, on va avoir des. Donc, on va jouer une carte de notre main. Et si on joue. On doit jouer au maximum une carte qui a une valeur ou une couleur commune avec des cartes ou les tuiles de la rivière. Et ainsi, on va pouvoir capturer cette carte tuile pour la placer dans son paysage. Si on ne peut pas le faire, on aura le droit à une autre chance. Et puis, si on ne peut vraiment pas, on récupérera une sorte de joker, enfin un arc-en-ciel qu'on pourra placer comme on veut. Et le but, c'est d'arriver à relier, d'avoir la plus grande zone adjacente, puisque chaque carte ou tuile n'est présente qu'en un exemplaire en réalité.
Oui, c'est ça, faut vraiment regarder. C'est un jeu à deux, il faut vraiment, vraiment regarder ce que fait l'autre.
Oui, il faut vraiment regarder ce que fait l'autre, ce que l'autre a pris pour faire parfois ne pas jouer ce qu'il y a déjà et ce qui est déjà foutu, quoi. Et cette mécanique elle est de capture, elle est reprise du Hanafuda en fait. Alors, quand on a joué toutes les deux, on a fait un reset parce qu'on a fait une grosse connerie au tout début. Alors que l'animateur nous avait bien expliqué, et je sais pas pourquoi on s'est engouffré dans une connerie toutes les deux, et au bout de quelques tours, on s'est rendu compte que ça n'allait pas, donc on a tout recommencé. Et on peut dire qu'après tout avoir recommencé, on a été acheter le jeu toutes les deux, donc c'est que quand même on peut dire qu'il nous a plu. Voilà, moi j'aime beaucoup le jeu.
C'est vraiment une belle surprise. Surtout que moi, cette année, autant l'année dernière, j'avais un peu craqué sur les achats, autant cette année, j'ai été hyper raisonnable. J'en ai pas ramené tant que ça. Et celui-là, je suis vraiment contente de... J'ai pas encore rejoué depuis que je suis rentrée à la maison, mais je suis vraiment contente de l'avoir embarqué dans ma
besace. En fait, c'est un jeu qui a quand même... qui est assez... qui a cette petite vibe un peu chill qu'on a beaucoup en ce moment. Et pourtant... C'est pas du tout chill, parce que comme tu l'as dit, faut vachement, comme c'est un jeu à deux, faut vachement surveiller ce que fait l'autre, parce que franchement, ça peut changer toute ta façon de jouer et tout. Parce que.
Ah bah, si t'attends une tuile qui va te permettre de tout relier et que l'autre te la chip, c'est mort.
Parce que la façon de capturer les tuiles, c'est super. Enfin, oui, c'est pas eux qui l'ont inventé, c'est repris d'eux, mais c'est super malin de le réexploiter. Et en plus, ce qu'il y a de cool, c'est que quand t'arrives à faire un carré avec 4 tuiles que t'as posées, tu peux aller chercher une tuile spéciale avec un petit animal et un petit esprit animal qui va te donner un petit pouvoir. Et les petits pouvoirs, ils sont vachement bien. Donc, tu vas être aussi par moment être poussé à faire... Oui, tu as ta zone la plus grande, mais tu vas être vachement poussé aussi à finir des carrés pour aller chercher les petits pouvoirs, quoi. Donc, il y a plein de petites... C'est un tout petit jeu avec plein d'idées malines. Voilà. Que tu dis... Tu joues, tu as envie de recommencer une partie directe après, quoi.
Oui, et le matos, il est vraiment chouette dans une minuscule boîte, un peu à la taille des One Game, là. Donc, chapeau aussi à ça, à ces éditeurs qui vendent pas des boîtes pleines de villes.
Et je crois que les petites tuiles animaux, elles sont esprits, là, elles sont un petit peu en... Ça fait un peu comme du... C'est pas du bois, mais ça fait un petit peu un effet bois, enfin, c'est...
Ah, si, si, ouais, c'est du bois.
C'est du bois d'arbre, mon Dieu.
Du bois d'arbre. Et moi, ça m'a donné un peu la sensation des vieux dominos. Et même au bruit, on a quasiment le même bruit, c'est beaucoup plus fin. Mais on a ce côté, elles sont vernies d'un côté, et puis on a ce bruit quand on les pose là de bois. Et t'as envie de les tripoter tout le temps, c'est hyper agréable.
Et puis les illustrations sont très chouettes. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Gros Bay en général, et là, c'est encore une fois très réussi. Enfin, vraiment, super, super cool. Vraiment un de mes jeux, enfin des jeux que j'ai préférés. Bon, alors j'avais déjà joué, mais probablement quand même dans ce que j'ai préféré d'y jouer en vrai. Et en vrai, c'est super agréable. En fait, il n'y a pas de... Même si BGA, tu vois, il te facilite la donne parce que tu as une sorte de grille. Tu vois la grille, là, tu la vois pas, faut que tu te l'imagines. Mais c'est pas problématique du tout. Tu n'as pas de manipulation un peu lourdingue qui te créerait un peu de, tu vois, des plaisirs dans le jeu, quoi. Non, très cool, quoi.
Ah non, au contraire, la manipulation est agréable. Le fait d'agencer ta montagne, y a un côté un peu puzzle qui est hyper agréable et qui est hyper satisfaisant. Puis si t'arrives comme ça à réunir des parties, à faire le bon coup, y a un côté un peu explosif qui est chouette. Même dans cet univers tout chill et tout peinard que nous donne l'illustration. Parce qu'on est dans des couleurs pastel et tout, on est dans... avec ses petits esprits qui sont tout mignons. Et puis, on retrouve quand même pas mal des marqueurs des jeux de Catala.
Alors, pour cette première, parce qu'on voilà, on se rend bien compte qu'on va faire en deux parties, parce que sinon, ce ne serait pas raisonnable. On va finir pour cette première partie avec un dernier jeu auquel tu as joué. Moi, je n'ai pas pu y jouer, mais j'avais très envie de l'essayer.
C'est Radjack, un jeu de Mathieu Kahn et Maxime Mercier, illustré par Zaël et qui sort chez Studio H. Donc, c'est un jeu de blackjack avec des rats. Et des belettes, et je ne sais pas quelle autre bestiole.
C'est pour Dany alors, c'est pour Dany Radjack alors.
Ah bah, j'ai évidemment tout de suite pris en photo, envoyé à Dany. Donc c'est un... On a... Sur le principe du blackjack, il va falloir qu'on arrive à une certaine valeur sans la dépasser, avec nos cartes. Sachant que chaque carte va aussi avoir un pouvoir. Donc à notre tour de jeu, on va piocher une carte, choisir de la montrer face visible, ou la mettre face cachée, histoire de pouvoir... Si tu la mets face visible, tu utilises ton pouvoir. Des fois, c'est pas hyper intéressant, les pouvoirs. Si tu la mets face cachée, le pouvoir n'est pas utilisé. Elle n'est pas comptabilisée dans tes... Donc, tu peux jouer comme ça. Tu peux avancer un peu en tapinois sur tes points. Et tu peux aussi aller te défausser... Enfin... Ouais, virer une carte, je ne sais plus comment. Si elle ne t'intéresse pas. En fait, on a eu un animateur qui parlait tout le temps. Et nous disait tout le temps ce qu'il fallait qu'on fasse et tout. Et ce qui fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à piger le jeu au départ.
Ouais, à t'approprier le jeu au final.
Ouais, c'est ça. Il prenait beaucoup trop de place, cet animateur. Et donc, j'avais du mal à piger les règles, à intégrer les règles. Et à... Ce qui fait que vraiment, mon début de partie est très, très nébuleux. Ouais, il y a ce côté un peu de j'avance caché, puis d'un coup, paf, je vous fais le coup du siècle, qui est hyper grisant. Je suis arrivée deux fois à faire ça. Bon, il y a une autre fois, on m'a... J'étais là, allez, le prochain coup, c'est bon, je gagne. Et puis, une de mes adversaires a chopé la manche juste avant. Ouais, non, c'est... J'avais jamais joué au blackjack. Donc, c'était une découverte aussi de ce jeu classique. Et tous les petits pouvoirs. Donc là, on a joué qu'avec les rats. Les rats et les rats. Qui ont les mêmes pouvoirs, mais après tu peux mélanger différents decks, les ratons laveurs, tu peux faire raton laveur rat, ou t'auras d'autres, donc t'auras deux sets de 12 pouvoirs. Les belettes aussi, c'est encore d'autres pouvoirs, donc à voir comme ça, faire un jeu un peu sur mesure. Je sais pas ce que vaut les autres pouvoirs et à quel point ça complexifie le jeu. Là, je trouvais que c'était déjà... Entre les valeurs de cartes, ce que tu mets face cachée, ce que tu mets face visible, ce que les pouvoirs vont faire, je trouve que c'est déjà pas mal. Enfin, déjà sur ce premier niveau, c'était pas mal. Parce que surtout, ce que les autres vont pouvoir faire, là, je peux mettre des jetons. Enfin, on a quand même pas mal de règles et pas mal de trucs auxquels il faut penser. Sur un jeu qui paraît vraiment le petit jeu de cartes à taper le carton, c'est quand même un niveau au-dessus. D'apprentissage, et je pense que tu as une courbe d'apprentissage et de progression sur le jeu qui est importante. Mais c'est très très agréable en tout cas.
Bon, bah écoute, ça m'incite encore plus à aller l'essayer quand j'aurai l'occasion du coup. Bah écoute, Elodie, on a déjà fait plus de 20 jeux. On sait qu'il nous en reste le même, on a fait 21 même. On sait qu'il nous en reste le même nombre pour la deuxième partie et je pense que si on veut garder de l'énergie pour continuer, on va faire en deux fois comme on a dit, hein, on s'en doutait un petit peu. Voilà, on laisse beaucoup de suspense pour la deuxième partie, les jeux dont on parlera.
En tout cas, encore des pépites, hein.
Oui, et puis aussi des déceptions, hein, je vous rassure.
Oui, aussi, mais oh là là, soyons positifs.
Non, parce qu'il y a quelques bons trucs quand même dans les jeux à venir, donc voilà, on ne dit rien, on garde le secret et on garde un peu de mystère. Je te remercie beaucoup pour cette première partie de débrief de Cannes, et puis on se retrouve très, très vite pour la seconde partie, et on remercie tous les auditeurs et auditrices.
Oui, bah merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast.
Ah, c'est un plaisir de se retrouver toutes les deux. Après notre journée entre filles, voilà, on peut débriefer tranquillement.
C'est ça.
Et puis, bah, je te dis à bientôt alors.
À tout bientôt, Paul Gara. Au revoir à toutes et tous.
Au revoir.